Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quand tu meurs, c'est une phrase con, mais quand tu meurs, tout est fini. Il n'y a pas à avoir peur de la mort, il n'y a pas à avoir peur d'une souffrance, parce que de toute façon, tu ne seras plus là pour la subir. C'est juste la continuité des choses, la continuité de la vie sur Terre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ce que je fais, c'est que je vais regarder un peu tous les styles que j'aime, toutes les vidéos, tous les youtubeurs que j'aime, et je vais prendre un peu de partout. Et à la fin, du coup, je mixe tout et ça fait un... On a l'impression que je suis créatif, mais je suis juste un voleur. Il faut utiliser Internet. C'est tellement un bon outil et on a de la chance de l'avoir à notre disposition. Il faut apprendre à l'utiliser, il faut l'utiliser.
Bon, salut Paolo, comment est-ce que ça va?
Salut Grégoire, ça va très bien.
Tu veux la refaire? Salut Paolo, comment ça va?
Très bien toi Grégoire.
Merde, la première règle. Ok, salut Paolo, comment est-ce que ça va?
Salut Grégoire, très bien toi.
Ça va bien. Ça fait exactement pareil qu'avec Anton. Mec, ça fait plaisir de t'avoir sur le podcast aujourd'hui.
Ça me fait plaisir d'être là.
À Nice, directement dans ta ville.
Au soleil.
Comment est-ce que ça va?
Très bien, toi?
Bah, ça va bien. Ça me fait plaisir de t'avoir sur le podcast. Ça fait, je dirais, un peu plus d'un an que je te suis sur YouTube. Et j'aime bien ce que tu fais. Et d'ailleurs, tu sais, quand j'avais fait un sondage il y a quelques mois, qui vous voulez voir sur le podcast, il y avait plein de Paolo.
Ah ouais?
Il y avait
vraiment. Mais je crois que tu sais, sur YouTube, on peut voir un peu les personnes, tes abonnés, ils regardent quelle autre chaîne? Et moi, il y a beaucoup de Grégoire Dossier aussi.
Ah, ok. Donc, Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de Paolo. Mais tu sais, moi, c'est plutôt les. Moi, il n'y a que les gros youtubeurs qui s'affichent quand je vois dans mes analytics comme ça. Moi, il y a Cyrus, il y a Thibaut, il y a Eric. Ouais. Mais en effet, par contre, quand j'ai fait le sondage, tu étais beaucoup dedans. Et je comprends pourquoi il y a beaucoup d'abonnés qui ont voulu te voir sur le podcast parce que, en effet, moi, je regardais déjà tes vidéos et je trouve que tu as vraiment une patte à toi. Et on va en reparler parce que tu as une façon de monter, tu as une façon de faire tes vidéos qui est hyper intéressante. Et tu parles de sujets qui, moi, m'intéressent beaucoup et qui, je pense, intéressent les 18-24 ans. Ouais, en gros, tu parles souvent de tes réflexions d'adulte, je trouve, de personnes qui se construisent à l'âge adulte. Et du coup, d'ailleurs, comment est-ce que toi, tu te définirais sur YouTube?
Alors, c'est une super bonne question parce que quand je disais que je faisais des vidéos YouTube à des gens, ils me demandaient « Ouais, mais tu fais quoi? Tu parles de quoi ?» Et j'avais vraiment du mal à définir ce que je faisais. Il n'y a pas longtemps, j'ai changé ma description YouTube et j'ai mis « De la philosophie dans la vraie vie ». Okay. Donc, on va dire qu'en fait, je vais parler d'une expérience que j'ai vécue et je vais essayer d'en tirer une morale derrière. Je pense que c'est le meilleur moyen de...
Mais ça encore même, ça, on dirait que tu fais du contenu... que tu as parlé vraiment de philosophie, alors qu'en vrai, quand on regarde tes vidéos, ça nous plonge dans des sujets et on n'a pas l'impression de faire de la philo, justement. Ouais. Et c'est ça qui est bien, je pense.
Ouais, bah, je pense, en fait, je ne suis pas là en train de citer des gens ou de dire... Enfin, pour moi, c'est juste... Pour moi, la philosophie, c'est un peu essayer de chercher la vérité. Et au final, on est tous un peu philosophes, on essaie de...
J'ai l'impression, la philosophie, tu me diras ce que t'en penses, j'ai l'impression la philo, c'est un peu le... Faut jamais dire que c'est de la philosophie.
Ouais.
Sinon, on pense au lycée, on pense à la terminale.
Ouais, c'est sûrement ça, c'est sûrement ça.
Et faut pas dire en fait que c'est de la philo, mais ça peut...
Ouais.
Moi, d'ailleurs, on pourra parler de nos philosophies à nous, parce que moi, j'avais parlé avec Mathias il y a quelques semaines de la philosophie du stoïcisme, qui nous a parlé beaucoup à nous. Mais c'est vrai que toi, tu parles pas forcément que de stoïcisme, mais même juste, toi, ta définition de la philo, c'est réfléchir à la vie.
Ouais, c'est ça. Ouais, juste avoir ses propres réflexions. Et moi, je vois ça comme essayer de trouver la vérité, un peu comment bien vivre sa vie.
Ok, ça, c'est bien ça. Ouais. Et c'est plutôt ça que... Parce que la définition que tu m'as donnée, j'ai l'impression que tu vas parler de philosophie, que tu vas vulgariser un petit peu comme pouvait le faire Cyrus North à un moment. Mais en vrai, ce que tu fais, tes vidéos, elles sont même... t'arrives à faire des vidéos hyper divertissantes même, je trouve. Mm-hmm. Bah, d'ailleurs, on va en parler, mais d'ailleurs, comment est-ce que tu te présenterais? Déjà, qu'est-ce que tu... aujourd'hui, tu es youtubeur.
Ouais.
Il y a pas longtemps, tu étais étudiant. Ouais. Est-ce que tu peux présenter un petit peu ton parcours scolaire plus classique?
Ouais, bien sûr. Première étape, je vais aller directement au lycée, j'ai fait un bac ES. Okay. Après le bac ES, je savais vraiment pas quoi faire et comme la seule matière dans laquelle j'étais bon, c'était l'anglais. Je me suis dit bon bah pourquoi pas faire une licence LEA, langue étrangère appliquée. Je faisais déjà un peu de chinois et on me disait bah continue le chinois parce que c'est la langue de l'avenir, etc. Donc je me suis dit bah vas-y, je vais faire une licence langue étrangère appliquée. Je fais ça, j'ai beaucoup de mal parce que j'étais pas un bon élève au lycée, donc première année je redouble. Ensuite bon on en reparlera peut-être, mais je lance un truc à côté sur internet, ça marche bien. Et je me dis, ok, c'est bon, je peux quitter les études, faire ça à temps plein. Et au final, je fais ça pendant une année. Et après, l'année suivante, je me dis, bon, bah finalement, je peux peut-être reprendre les études. Donc, je reprends. Et au final, je prends 5 ans pour terminer ma licence. Dernière année, je fais un échange universitaire à Taïwan. Super bonne expérience. Ça m'a appris plein de trucs. Enfin, c'était vraiment une très bonne expérience. Je rentre en France après ça avec ma licence. Je voulais faire un master, donc je postule à des masters. Et heureusement, j'ai pas été pris parce qu'au final, en fait, je postulais juste parce que c'était la continuité des choses, mais j'avais vraiment pas envie de faire un master. Donc heureusement qu'ils m'ont pas accepté. Et donc là, je me retrouve avec ma licence. Je retourne chez mes parents et je me dis, ben, moi, j'aime bien faire des vidéos sur YouTube, j'ai envie d'en faire plus sérieusement. Je vais me laisser un an pour faire ça et après, on verra. Je commence à faire ça à la rentrée de septembre jusqu'à janvier. Et là, en janvier, il y a une annonce de l'atelier Missor. Ils recrutaient des gens pour être en CDI à Nice.
C'était janvier 2021, là c'était...
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Okay. Janvier 2021. Je postule, j'y vais. Et voilà, là, ça fait un an que je travaille jusqu'au mois dernier où j'ai quitté l'atelier, là.
C'est ça. OK. OK, il y a beaucoup de choses. On va y revenir. Mais c'est vrai que tu as travaillé donc à l'atelier Missor.
Ouais.
Et c'est… Alors moi, je t'avais d'abord découvert sur YouTube. Mm-hmm. Et après, en effet, dans certaines vidéos de l'atelier, j'ai vu que tu apparaissais. Et de toute façon, tu en parlais dans tes vidéos, ouais, YouTube aussi. Ouais, parfois, ouais, tu avais fait une vidéo sur ton étrange métier, quelque chose,
ouais,
comme
c'est ça.
Ouais. Mon métier…
Mon travail improbable, je crois.
Mon travail improbable. Ouais. Et j'avais fait le lien à ce moment-là. Et mais donc, moi, ce qui m'intéressait, t'en as parlé dans une vidéo récemment sur tes études, c'est que, en effet, t'as fait une licence et après t'as été refusé en master. Mm-hmm. Et ça t'arrangeait en fait parce que ça te donnait un prétexte pour te lancer.
Ouais, exactement, ouais, un prétexte. Ouais, ouais.
Mais donc toi, tu t'es pas trouvé avec les études.
Ouais.
Et par contre, t'as toujours eu cette passion de la langue.
Ouais.
Et ton premier projet dont tu parlais juste avant, t'apprenais à des personnes à apprendre le coréen,
ouais,
c'est ça ?
Ouais, c'est ça, ouais. En gros, j'ai lancé ma chaîne YouTube en me disant que j'allais documenter mon apprentissage d'une langue. Donc moi, en fait, j'ai choisi le coréen parce que, à la base, moi, je suis un gros joueur de League of Legends. Et en fait, si tu veux, genre, jusqu'à l'université, jusqu'à mon bac, dans ma tête, j'allais devenir joueur pro de League of Legends. Et donc, je me suis dit, en fait, c'était un moyen de… Enfin, j'avais trouvé un sujet pour ma chaîne YouTube… Et en même temps, j'allais apprendre une langue qui allait pouvoir me servir parce que, bon, pour faire la connexion, en gros, sur les jeux vidéo comme ça, les compétitions, c'est souvent les Coréens qui sont très très forts. Je sais pas si tu…
Non, je connais, j'ai joué une fois avec des potes, mais okay, voilà, okay. Je connais pas. Je sais que c'est un jeu où on rage beaucoup par contre.
Ouais.
Ça t'a travaillé ton mental un petit peu
Bah, après, moi, je suis pas un gros rageux sur les jeux vidéo, donc ça va. Ouais.
Ok.
Et ouais, qu'est-ce que j'allais dire ? Donc, sur les jeux comme ça compétitifs, c'est souvent les Coréens qui sont très très forts. Et moi, je me suis dit, d'une manière ou d'une autre, je veux travailler dans ce secteur-là. Que je sois joueur pro ou pas, bon après, je me suis rendu compte que j'étais fort, mais j'étais pas assez fort pour devenir pro. Donc, je me suis dit, si je sais parler chinois, coréen, et que je suis intéressé par le milieu, je vais forcément trouver quelque chose et pouvoir travailler là-dedans. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le coréen. Et bref, pour revenir au sujet de la chaîne YouTube, je documente mon apprentissage pendant un an. Et à la fin de cette année-là, je sors un programme que je mets en vente pour les gens qui me suivent et qui veulent avoir les mêmes résultats. Et j'ai beaucoup été influencé par des gens sur YouTube, que ce soit des Américains ou des Français, qui faisaient cette chose-là, qui gagnaient leur vie sur Internet avec leur chaîne YouTube sans avoir forcément beaucoup d'abonnés. Parce qu'à l'époque, j'avais peut-être entre 2000 et 4000 abonnés et j'arrivais à gagner de l'argent avec ça.
Et en plus, tu faisais quelque chose que tu aimais, tu apprenais, ouais, à des gens à apprendre. Mais c'est ça que tu représentes, selon moi, c'est vraiment la débrouillardise.
Ouais.
Et j'aime beaucoup cet aspect que tu montres sur YouTube. Et t'en as parlé récemment, justement, où tu, dans ta vidéo sur est-ce que tu as bien fait d'arrêter tes études,
ouais,
ou pas,
ouais, ouais.
Tu parlais de, à la fin, il faut que tu arrives à gagner l'équivalent de ce que tu pourrais gagner si tu avais fait un travail grâce aux études, par exemple. Et en fait, t'expliquais que si tu gagnais 25€ par jour, 50€ par jour avec des missions mm-hmm. comme celle d'apprendre une langue en particulier, bah en fait, tu pouvais à la fin du mois être indépendant et gagner toi-même tes propres revenus, en fait.
Ouais, exactement.
Et tu représentais bien ça et tu le représentes toujours, je trouve, avec ton travail que tu faisais à l'atelier. C'était quand même, tu travaillais avec tes mains, tu travaillais, ouais. T'avais un job, c'était ton job. Ouais. T'as la chaîne YouTube, t'as eu ce projet-là d'apprendre le coréen. Et justement, je voulais bien revenir sur ta dernière vidéo sur les études. Mmh. Alors, c'est pas la dernière parce que t'as parlé de l'italien un petit peu. Oui, parce que t'apprends l'italien aussi.
Ouais, aussi, ouais, ouais. Enfin, là, j'ai arrêté parce que je suis plus sur, là, je suis sur le chinois, en fait. Enfin, bref. Là, on a l'impression le mec qui part dans tous les sens. Mais là, je me mets sur 3 mois, un apprentissage plus régulier du chinois.
Bah, tu représentes un peu aussi ça, le mec qui part un peu dans tous les sens.
Oui.
T'avais fait une vidéo sur le, peut-être que des personnes t'ont découvert cette vidéo sur le syndrome Léonard de Vinci.
Ouais, exactement.
Et comment tu définirais ce syndrome?
C'est touche à tout en fait, vraiment un peu, on pourrait dire, même si c'est péjoratif, partir dans tous les sens en fait. Dès qu'il y a un truc qui te plaît, tu vois, ça t'attire, tu dis oh vas-y, j'ai envie d'apprendre ça, j'ai envie de faire ça, et de pas, j'ai du mal à n'avoir qu'un seul projet, qu'une seule chose à faire dans ma vie.
Alors cette vidéo, j'ai vu les commentaires de cette vidéo, il y avait plein de personnes qui étaient là, vas-y, je suis comme Léonard de Vinci en fait. Alors d'ailleurs ça fait bien, je trouve, ça fait classe.
Oui, c'est vrai, ouais. Plutôt que touche à tout.
Ouais, c'est ça, part dans tous les sens, tu vois. Ouais. Alors pour le coup, cette vidéo, je l'ai vue, je suis pas du tout touché par ça. Moi je suis plutôt obsessionnel sur un truc, mais j'ai vu le nombre de personnes qui étaient influencées par cette vidéo et qui se sont dit, ah ouais, en fait moi aussi je suis comme toi, j'ai un truc qui m'intéresse, un peu l'objet brillant et tu fonces vers ça. Mais c'est vrai que tu représentes ça aussi un petit peu en parlant des langues, là, toutes les langues que tu as apprises. Ouais. Mais ça, c'était une autre vidéo. Du coup, tu as fait une vidéo sur Léonard de Vinci, le syndrome. Mais tu touches à plein de sujets intéressants et notamment les études. Et ça m'a parlé parce que c'est un petit peu, c'est un peu un sujet qui m'intéresse, les études. Et j'aime bien l'idée que moi, mon objectif, c'est que les personnes qui me suivent ou que les personnes qui font des études fassent quelque chose qui leur plaît dans 5 ans, tu vois. Ouais. Que ce soit par les études, par la voie des études ou par la voie indépendante, entrepreneuriale. Et toi, tu représentais bien le youtubeur qui essaie de trouver sa, de se créer sa situation de manière indépendante et de créer toi-même tes propres sources de revenus. Et je trouvais ça intéressant. Et donc, tu as fait une vidéo sur la fin de tes études. Ouais. Tu te posais la question, même si toi, tu penses que tu sais déjà d'avance si tu as bien fait d'arrêter ou pas les études, en fait.
Ouais, mais après, vas-y, finis.
Tu posais, en gros, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, mais je vous invite à la regarder, tu parlais de ce que tu viens de nous parler, le fait que tu as fait une licence, qu'après, tu as fait ce stage, enfin cette expérience à Taïwan qui t'a beaucoup plu, et tu es rentré après en France et tu devais trouver un master, chose que tu n'as pas trouvé parce qu'on t'a refusé, mais en fait, tu étais très content d'être refusé et ça t'a donné l'opportunité de te mettre à fond dans ton activité YouTube et à l'atelier. Ouais. Cette vidéo était intéressante parce que déjà, tu parlais de... T'as dit une phrase qui, selon moi, est très juste, c'est que tu as dit que t'allais monter ta valeur sans les études.
Ouais.
Monter ta valeur sociale sans les études. Ouais. Et justement, j'aimerais bien que tu nous parles de, selon toi, comment est-ce que t'as fait, toi, pour monter ta valeur sociale sans les études, en fait.
Ok. Bah, déjà, je pense pas que je suis forcément... Enfin, est-ce que peut-être que... C'est vrai que forcément, de nos jours, on va dire que si t'as des abonnés sur Instagram, sur YouTube, bah, ta valeur, elle va augmenter, on va dire ça comme ça. Après, moi, je me considère pas comme... j'ai pas encore atteint mon objectif de m'élever socialement, d'aller là où je veux aller. Donc, en réalité, je sais pas si je peux répondre à ta question parce que pour moi, j'y suis pas encore arrivé. Okay. Mais je pense que c'est la bonne voie.
Mais en tout cas, est-ce que tu penses que t'as bien fait d'arrêter tes études pour revenir à cette vidéo?
Ouais, justement. En fait, je me dis, c'est juste que je savais qu'avec les études, j'allais pas y arriver. Parce que j'ai toujours été un élève moyen avec des mauvaises habitudes d'études. Donc, j'ai perdu beaucoup de temps dans ma licence. Bah, comme je t'ai dit, j'ai pas les bonnes habitudes, tout ça. Et voilà, tu vois, là, aujourd'hui, j'ai 24 ans. Donc, à un moment... Enfin, bref. Du coup, je sais que avec les études, j'y arriverai pas. Donc, j'essaie de trouver une autre voie parce que j'ai pas d'autre choix, en fait. Et pour revenir aux études, déjà, faut savoir que quand je sors une vidéo... Souvent, peut-être 2 semaines après, je suis plus d'accord avec ce que je dis. Tu vois, c'est juste une pensée. J'ai envie de le sortir, mais je suis jamais fermé sur ce que j'ai dit dans mes vidéos. Donc, je suis pas non plus. Enfin, pour moi, peut-être que je sais pas. Je vais refaire un master l'année prochaine ou faire une formation. J'en sais rien. Tu vois, je me ferme pas. Je vais voir où le vent me mène. Mais
Mais ça, c'est très juste ce que tu dis sur le fait de toi. T'as compris que ta valeur sociale. Elle n'allait pas monter forcément avec les études, que t'étais pas dans ton élément en fait. Voilà, et ça, je trouve ça intéressant parce que, en fait, j'essaie de de comprendre les différentes voies qu'il existe. Tu vois. Mmh. Et il y a toujours la voie des études qui existe. Il y a des personnes qui vont s'élever socialement grâce aux études et je trouve ça cool que c'est toujours une réalité. Les études peuvent te faire monter socialement. Pourquoi ? Parce qu'elles te donnent des connaissances, elles te donnent des compétences et parfois elles te donnent un réseau. Donc, en effet, tu vas monter socialement. Et ta valeur aussi, il y a des personnes qui… je pense toujours à ma tante qui a arrêté ses études de droit plutôt que ce qu'elle aurait voulu et qui maintenant regrette. Et c'est ancré en elle, tu vois. Elle se dit que si elle avait continué, sa valeur aurait augmenté. Okay. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a sa valeur personnelle aussi. Il y a d'autres valeurs. Enfin, il y a pas que ça, il n'y a pas que les études qui donnent une valeur. Mais c'est vrai que… encore et encore plus pour la génération d'avant, ta valeur dépend de tes études en fait. Et sûrement que à cette époque-là, tes études déterminaient vraiment ce que tu allais faire ensuite plus tard. Mais donc il n'y a pas que ça.
Mais justement, ce que je disais, tu vois, pour les études qui te ramènent, tu avais dit le réseau, les compétences
et les connaissances.
Ouais. Et pour moi, en fait, justement, c'est dans cette vidéo aussi, je parle beaucoup d'Internet. Je dis merci Internet parce que Internet me donne tout ça. Enfin, le réseau juste. Si tu fais des vidéos sur YouTube, t'as l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes. Donc le réseau, tu peux te le faire. Il y a plein d'autres manières. Les compétences, t'as tout sur Internet. Le problème après, c'est d'être suffisamment discipliné et pouvoir travailler et apprendre sans avoir un cadre comme celui des études. Je sais que moi, tu vois, je suis beaucoup plus discipliné quand je dois travailler tout seul que quand je suis en cours. C'est quelque chose qui me convient mieux à moi.
Alors après, on part tous de notre vie à nous. Donc, par exemple, toi, comme tu as étudié les langues, en effet, je pense que déjà les meilleurs professeurs de langue sont pas forcément dans les universités. Parfois, ils sont sur YouTube et c'est comme moi quand j'avais appris la guitare petit, j'avais trouvé des excellents professeurs en ligne sur YouTube. Et j'imagine que c'est pareil pour les langues. Après, tu vois, par exemple, le droit, c'est un domaine particulier. En effet, les connaissances et les compétences d'un juriste, tu pourras, je pense, jamais vraiment les apprendre sur Internet. Tu as des cours sur Internet, de la vulgarisation sur Internet, mais tu peux pas apprendre toutes les compétences pour moi sur Internet. Par contre, c'est vrai que tu peux en apprendre énormément et surtout des compétences qui sont très valorisées en ce moment. Tu vois. Justement, je trouve que toi, t'as un bon monteur.
Ouais.
C'est toi qui fais ton montage.
Ouais.
Et le montage, c'est typiquement une compétence qui vaut extrêmement cher en ce moment.
Ah ouais, tu trouves ? Je connais pas trop les prix.
Non, mais je parle pas de prix. Je connais pas du tout je pourrais pas estimer. Mais le nombre de professionnels du droit, par exemple, que j'ai rencontrés qui ont envie d'un monteur ou qui m'ont demandé moi de faire des vidéos pour eux, mais à qui j'ai dit non, c'est énorme. Et la compétence du montage, tu l'as apprise sur Internet.
Exactement.
Et tu vois, j'ai du mal à. Faudrait faire un jour un fichier Excel, tu vois, où tu mets toutes les compétences que tu peux apprendre à la fac et seulement à la fac, imaginons, et toutes les compétences que tu peux apprendre sur Internet et la valorisation, tu vois. Comment ça s'appelle les tier list, tu vois.
Faudrait
qu'on fasse une vidéo les tier list des compétences qui. Mais le montage, c'est pour moi une compétence top tier.
Ouais.
C'est tout ce qui touche au contenu des réseaux sociaux, en fait, le montage, le tournage de vidéos aussi, la capacité de parler, la capacité d'écrire aussi. Mais ça, on l'apprend aussi aux études. Mais voilà, c'est une question de compétences en fait. Et donc toi, en effet, t'as monté tes compétences et tes connaissances avec Internet. Mais moi, je suis comme toi. Merci Internet, quoi. J'ai appris énormément de choses avec ça. Et d'ailleurs, t'as appris quoi sur c'est quoi les vidéos? Je sais qu'on a parlé un peu de Peterson juste avant de tourner cette vidéo. Ouais. C'est quoi les vidéos qui t'ont le plus retourné le cerveau? Les conférences que t'as pu voir ou les gens, juste des gens qui.
Bah, là tu me prends un peu au dépourvu, mais j'irai en vrai. Je sais que à l'époque, moi, je sais pas si tu connais, mais un youtubeur vraiment que j'aimais énormément, c'est Autodisciple.
Ok.
Tu vois qui c'est?
Juste de nom.
Ok. Lui, c'était un peu. Et je sais, il y a des personnes qui me disent on retrouve un peu ce truc-là dans tes vidéos, et moi, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. C'est en fait, il avait un style de vie très particulier que. Je n'envisageais pas en fait auparavant. Et pareil, on a parlé d'Antoine BM. Pour moi, c'était une grosse inspiration, C'est ça. En fait, il te montre qu'il y a des trucs que tu n'envisageais pas avant et qui sont possibles en fait.
Okay.
Et lui, il m'a retourné le cerveau.
C'est ça. Mais en fait, je te pose la question parce que je vois très bien les questions qu'on peut nous poser justement lorsqu'on parle des compétences qu'on peut apprendre sur Internet, les connaissances. En fait, la plupart des personnes, leur feed YouTube, c'est le top 10 des vidéos tendance en France. C'est pas forcément des vidéos qui vont t'apprendre des choses ou qui vont te retourner le cerveau. Et c'est pour ça que je te pose la question parce que nous, on est tombé sur des vidéos qui nous ont retourné le cerveau, qui nous ont montré qu'il existait d'autres voies que celles qu'on imaginait. Et c'est pour ça que je te pose la question, parce que moi, je, donc moi, c'est un peu ce que je fais avec en ce moment avec le podcast. J'essaie de montrer directement les personnes qui m'ont retourné le cerveau sur YouTube, tu vois. Et c'est pour ça que je pose la question aussi à d'autres personnes, pour qu'elles elles-mêmes elles citent les personnes qui leur ont appris des choses. Parce que la plupart des personnes ne s'en rendent pas compte, et bah, même mes parents, pour eux, c'était impossible que j'apprenne des choses sur YouTube. Mmh. Internet, c'était interdit pour moi il y a 10 ans. Tu sais, c'était attention à ce que tu regardes sur Internet, tu vois, mets pas ton adresse email. Tu te rappelles, on mettait un pseudo il y a 12 ans encore.
Ouais.
Fallait mettre un pseudo sur Internet.
Ouais.
Fallait jamais mettre ton vrai prénom, tu vois. Et maintenant, on montre nos vies sur Internet. Enfin, ça a évolué de fou.
Ouais,
et il y a toujours cette défiance d'Internet des générations d'avant, à juste titre parfois. Mais voilà, c'est pour ça que je te demande des exemples. Mais du coup, toi maintenant, t'as monté ta valeur, t'as quand même, t'as pas atteint ton objectif encore, tu dis, mais t'as quand même des connaissances maintenant.
Oui.
En fonction, bah après, t'as plein de connaissances justement à cause de ce syndrome de Léonard de Vinci.
Ouais.
T'as des connaissances un peu sur la muscu, t'as des connaissances en philo, t'as des connaissances pratiques aussi en montage vidéo. Donc en vrai, ta valeur, elle a monté forcément au cours des dernières années. Et t'as pas forcément atteint ton objectif, mais t'as monté ta valeur en tout cas grâce à YouTube. Et ce serait quoi toi tes conseils pour quelqu'un justement qui veut monter sa valeur, un exemple, toi, le toi qui est avant de se lancer sur YouTube, ce serait quoi ton conseil à toi pour qu'il augmente sa valeur si justement il est comme toi et qu'il n'a pas ce truc des études, lui?
Ok, bah moi c'est directement vraiment, c'est utilise Internet forcément et bah, je pense, enfin on en a parlé tout à l'heure, mais je pense qu'on donnerait le même conseil, c'est créer du contenu sur Internet en fait, c'est il faut le... Il faut utiliser Internet, c'est tellement un bon outil et on a de la chance de l'avoir à notre disposition qu'il faut l'utiliser, il faut apprendre à l'utiliser, il faut l'utiliser.
Mais donc l'utiliser, pour toi, la meilleure façon d'utiliser Internet, c'est d'apprendre et de créer du contenu.
Ouais, ouais, voilà, ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'aujourd'hui, en fait, avoir des abonnés, avoir des gens qui te suivent et qui te font confiance, c'est un putain de capital. Ça a une valeur. C'est pour ça que d'ailleurs il y a des marques qui mettent des gros chèques, qui donnent des gros chèques à des youtubeurs. C'est parce que c'est une vraie valeur en fait. Avoir des gens qui te suivent et qui écoutent ce que tu dis, je pense que c'est un des plus gros pouvoirs qu'on peut avoir là au 21e siècle.
En fait,
là,
ça a toujours eu de la valeur.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'avant, les gens qui avaient de l'influence, c'était les personnes, c'était toujours les mêmes personnes, c'était un groupe de personnes, soit qui étaient à la télé, soit qui détenaient les journaux.
Ouais.
Et c'est vrai que maintenant, c'est redistribué.
Ouais.
Et Internet a redistribué l'influence un peu à n'importe qui.
Bah, c'est quand tu vois quelqu'un qui, je sais pas, qui explose sur TikTok, du jour au lendemain, il passe de total inconnu à superstar.
Ouais, ça s'est passé là, il y a une semaine, il y a un joueur de foot.
Ouais.
Je sais pas si t'as vu passer sur TikTok, il y a un gars qui a toujours un maillot du Brésil par exemple, et il tirait, il faisait des buts, il marquait des buts sur TikTok sur un terrain tout pourri. Vraiment, le terrain il est horrible, il y a des trous partout. J'imagine qu'il était au Brésil, je sais pas, dans un endroit complètement paumé. Et il a signé dans un club pro il y a une semaine parce qu'il a des millions d'abonnés sur TikTok. Il a fait une vidéo avec Neymar qu'il a rencontré. Enfin, sa vie elle a changé, tu vois. Ça, c'est un exemple sur. C'est le 0,01%, tu vois,
c'est
dont
clair.
On parle.
Ouais.
Mais rien que la semaine dernière, j'ai revu une youtubeuse que je suivais qui s'appelait Christina.
Mm-hmm.
Elle a sur YouTube, elle a 26 000 abonnés. Et il y a une abonnée qui lui a proposé un stage, un travail de community manager à Montréal la semaine dernière. Et tu vois, elle a pas forcément une communauté gigantesque, mais c'est vrai qu'il suffit d'une personne, une personne qui te propose quelque chose et ça peut changer ta vie.
C'est ce que j'ai dit avec YouTube, c'est en fait t'as une autre façon de cultiver ton réseau. Et juste si t'as un abonné qui bah voilà qui te propose ce genre de choses.
Et c'est vrai qu'on est tellement habitué aux youtubeurs aux millions d'abonnés qu'on se dit que avoir 500 abonnés c'est rien du tout, mais 500 personnes, voilà, il suffit qu'il y en ait une qui te propose quelque chose d'intéressant, ou alors il suffit qu'il y en ait 20 qui te fassent des compliments un jour sur une vidéo, ça peut te donner confiance en toi pour les prochaines années. Hein. On s'en rend pas compte.
Ouais.
Mais ouais, on s'en rend tellement pas compte. Tu sais, sur YouTube, on fait une vidéo, imaginons, on fait une vidéo, on fait une vidéo qu'à 100 vues. Imaginons, il y a 10 personnes qui nous disent super vidéo.
Ouais.
Ça arrivera pas. Hein. 100 vues, t'as pas 10 commentaires normalement.
Ouais.
Mais en gros, imaginons qu'il y en ait 10. On s'en rend pas compte, mais s'il y a 10 personnes qui viennent dans la pièce qui nous disent j'adore ce que
merci,
tu fais,
merci.
On n'est pas habitué, tu vois, et ça donne confiance. Et je suis d'accord, t'as raison, ça dépend, on peut très vite gagner confiance en soi ou avoir des opportunités si on est suivi par ne serait-ce que quelques centaines de personnes en fait. Et on s'en rend pas compte, t'as raison.
Ouais.
Et c'est pour ça que tu parlais de créer du contenu, la meilleure façon de se faire connaître, c'est forcément de créer du contenu.
Ouais, j'en vois pas d'autres.
De toute façon, Internet, soit tu consommes, soit tu crées.
Oui, c'est ça, t'as raison.
Faut faire les deux, faut consommer intelligemment et créer.
Mm.
Et après, nous, on l'a fait en vidéo.
Oui, c'est ça. Il n'y a pas que la vidéo, bien sûr. Ouais.
Mais c'est vrai que la vidéo, maintenant, pour moi, c'est aussi un peu incontournable. Même si t'aimes bien écrire, ouais. même si t'aimes bien les blogs, pour moi, il faut aussi un moment faire de la vidéo. Ouais. Enfin, c'est le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut vraiment créer une audience oui. sur...
Forcément, aujourd'hui, la vidéo, ça touchera plus qu'un article.
C'est clair. Puis, il y a tellement de possibilités créatives. Bah, justement, tes vidéos, elles sont hyper créatives, je trouve. Et
merci, ça me fait plaisir.
Je le pense vraiment. Tu mets le choix des musiques, le choix des animations, le fait que volontairement, tu fasses des vidéos de qualité pourrie ouais. avec une caméra d'ordinateur juste pour un côté old school ou alors je sais pas qui. Mais c'est vrai que ça capte l'attention, tu vois. Ouais. À une époque où tout le monde filme en 4K quasiment avec des caméras professionnelles, le fait que tu enregistres avec ta webcam, mm-hmm. ça donne envie de rester, tu vois. Même les séries Netflix le font parfois. Oui, tu sais, dans la série, elles mettent un passage avec la personne qui parle à la webcam.
Ouais, ouais.
Et donc ouais, en effet, ton montage est très créatif. Tu montes sur quoi d'ailleurs ?
Je monte sur Premiere Pro et After Effects.
Ok, c'est comme ça que tu arrives à créer des petits...
Les animations, c'est avec Photoshop.
C'est toi qui les fais ?
Photoshop, ouais.
Par exemple, ta dernière vidéo, tu avais un moment où tu parlais
ouais.
à la caméra, au webcam, et il y avait une petite barre de chargement qui...
Ah ça, bah ça c'est After Effects, ça.
After Effects,
ouais.
Ok. Ok, mais c'est toi qui fais... Alors, j'ai pas d'autres exemples en tête, mais c'est dans tes vidéos, tu as toujours des petits effets qui se passent, tes petites voix off. Mais il y a vraiment un style, tu vois. Et t'as créé ton style, parce que autant il y a beaucoup de youtubeurs où j'arrive à dire « Ah, je vois l'influence de telle mm-hmm. personne mm-hmm. », toi, j'ai pas réussi à trouver parce que t'as quand même ton style à toi.
Ouais, bah, en fait, moi, je pense que... Tu vois, c'est marrant, mais je me suis toujours considéré comme une personne pas créative. Et là, en fait, et je pense que je suis toujours pas créatif. Ce que je fais, c'est que je vais regarder un peu tous les styles que j'aime, toutes les vidéos, tous les youtubeurs que j'aime, et je vais prendre un peu de partout. Et à la fin, du coup, je mixe tout, et ça fait on a l'impression que je suis créatif. Mais je suis juste un voleur qui mélange un peu.
Ouais, alors je vois ce que tu veux dire, mais en soi, tu voles pas, tu...
Oui, non, bien sûr, j'adapte, c'était pour rigoler, mais...
Je vois ce que tu veux dire, parce que c'est vrai que en vrai, ce que disent pas les youtubeurs, c'est que tous les youtubeurs regardent tous les youtubeurs. En fait, on s'influence tous, plus ou moins, mais je vois ce que tu veux dire, on s'inspire tous de ce qu'on voit. Mais ouais, t'as parlé déjà de tes inspirations un petit peu, donc Antoine BM,
ouais.
Autodisciple.
Mais ça, c'était surtout dans le... En fait, c'est le moment, si tu veux, où je termine le lycée, j'arrive à la fac, et là où j'étais complètement paumé, et c'est là où j'ai commencé à vraiment consommer beaucoup de... Je suis allé voir un peu partout sur YouTube, et ces personnes-là étaient là à ce moment-là, et m'ont mis des idées dans la tête, tu vois.
Mais c'est exactement pareil. Mais exactement pareil. Et du coup, d'ailleurs, comment est-ce que tu l'as vécu, cette phase de remise en question
Au début, très très mal, vraiment. Vraiment, j'étais... Je change de ville, je vais à l'université, alors que au lycée, en fait, j'avais plein de potes, j'étais toujours avec ma bande de potes et tout, c'était trop bien. Et là, je me retrouve avec des gens, je sais pas, ça passe pas, à part de trois personnes avec qui je me suis vraiment bien entendu, mais c'est tellement différent du lycée.
Pourquoi t'avais changé de ville?
Parce que, en fait, moi, j'habite dans une plus petite ville, et l'université où j'allais, à Lille, c'est une plus grande université,
okay,
tu vois.
C'est une grande ville.
Ouais. Et donc voilà, des gens qui sont complètement différents de moi et j'accroche pas. Moi, je pense à autre chose, tu vois, je suis toujours dans... C'est à ce moment-là où je me dis, bon, bah, Paolo, tu seras pas joueur professionnel, donc essaie de trouver un autre truc. Et ouais, c'est ça, ouais.
Mais c'est... Ok, je vois là un peu la phase de remise en question. Et puis limite, parfois, t'es un peu... Le fait qu'on te montre qu'il y a d'autres voies, mm-hmm. t'es content au début, puis en fait, ça te crée tellement de pensées. Genre, t'imagines même pas que ça existait.
Ouais.
Parfois, c'est peut-être plus simple de s'imaginer qu'il y a juste un chemin.
Ouais. Ah, j'ai pas trop eu ce truc, tu vois.
Bah, en fait, moi, c'est. Par exemple, quand je me suis rendu compte que, en fait, je pouvais aussi, moi, créer des vidéos sur YouTube, mm-hmm. j'ai eu. Ça m'a tellement fait peur, l'idée de le faire, qu'en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, non, j'aurais préféré oublier l'idée tellement.
Okay,
ça m'a obligé de me remettre en question tellement de choses, en fait.
Ok.
C'était tellement un nouveau changement,
ouais.
le fait de me dire. Parce que. J'ai toujours été l'étudiant qui faisait ses études et qui son job c'était de faire ses TD et de réussir ses examens en gros.
Ouais.
Et là ça voulait dire que j'allais devoir réussir mes examens, continuer de faire la même chose et en plus créer des vidéos et m'exposer publiquement. Mmh. C'était trop difficile à, comme changement, parce que ça faisait déjà 3 ans que je faisais des études. Et à ce moment-là, je me suis dit, ouais, en fait, limite, pourquoi pas oublier tout et juste revenir sur mes études. Et après, je me suis dit, non, en fait, c'est trop bien d'avoir justement ces nouvelles réflexions.
D'accord, ok, ok.
Mais c'est vrai que quand t'es en pleine remise en question, y a un moment où t'acceptes même plus les nouvelles réflexions. T'en as tellement dans ta tête qui se mélangent.
Ah, bah, tu vois, du coup, je pense qu'on est pas pareil sur ce point-là. Moi, c'était plus, bah, je suis très optimiste et très enthousiaste. Donc, tout ce qu'on me disait, je le prenais et pour moi, c'était, peut-être même, tu vois, un petit peu trop, parce que du coup, je me dis, mais en fait, c'est trop facile, la vie. Tu vois, parce que dès qu'on me parle d'une idée, je me dis, bah, vas-y, moi aussi, je vais le faire et c'est bon, je vais réussir.
Là, c'est le Léonard de Vinci qui ressort, là. Paolo Vinci, là, qui ressort. Ok, je vois à quoi ça ressemble à Léonard de Vinci au quotidien.
Ouais,
oh, yes, trop bien. Non, justement, peut-être que moi, je m'étais dit, ok, genre, j'étais content, trop content d'apprendre que, par exemple, c'était possible de vivre de sa passion sur Internet. Mm-hmm. Et après, je me dis, ouais, mais il y a forcément quelque chose, il y a forcément, énormément de travail derrière, tu vois. Et je me disais, est-ce que c'est vraiment possible? Ah, je sais pas. C'est plutôt ça mon état d'esprit.
Ok, d'accord. Ok, ouais.
Donc en effet, je dois pas avoir le même syndrome Léonard de Vinci. Je dois avoir un petit arrière, je sais pas, un petit rationnel en plus, tu sais, où je me dis, qui me remet un peu sur le chemin. Peut-être que c'est ça.
Ouais, parce que moi, je pense que je suis un peu. Enfin, je suis très rêveur et très optimiste. Du coup, je pars facilement de l'autre côté, tu vois.
Ce qui est sûr, c'est que maintenant ça marche sur YouTube.
Ouais, après ça.
Est-ce que t'as envie de YouTube aujourd'hui?
Là, c'est une période compliquée pour dire. Non, enfin non. De toute façon, j'en vis pas. Mais je veux dire, enfin là, de toute façon, j'ai arrêté mon travail en tant que salarié. Donc là, j'aurai plus que YouTube. Et on va voir comment ça se passe. J'ai plein d'autres projets, plein de trucs à faire.
Parce que oui, toi, t'as pas que YouTube. C'est un projet que t'as lancé, mais t'en as d'autres aussi.
Ouais.
C'est ça. Mais donc, tu parlais de ton travail salarié. Tu viens de quitter l'atelier Missor au moment où on tourne cette vidéo. Ça fait quelques semaines, c'est ça?
Ouais, ça fait 4 semaines, je crois.
Ok. Donc ça faisait 1 an depuis janvier 2021.
Exactement.
Est-ce que tu t'es plus cette année avec eux? Mm-hmm. Et pourquoi est-ce que t'as quitté maintenant l'atelier?
Ok. Alors, comme toute période, il y a du bon et du mauvais, mais ça m'a apporté tellement, tellement de choses. Enfin, si c'était une trop bonne année, que ce soit juste connaissance de moi-même, j'ai rencontré aussi des gens formidables. Enfin, tous les employés qui sont arrivés au fur et à mesure de l'atelier, c'est devenu des super potes. C'est des gens que j'adore. Donc des connaissances, pareil aussi des connaissances professionnelles. C'était la première fois que j'avais un vrai travail aussi longtemps. Et ce qui est bien avec l'atelier Missor, c'est des jeunes. Et donc ils ont fait aussi, il y a eu des erreurs, il y a eu plein de choses, et j'ai aussi appris en étant dedans, en voyant comment ça se passait, et ça m'a aussi permis de comprendre que ben c'est pas parce que t'es jeune ou t'as pas forcément si t'as pas forcément de comment dire d'expérience dans la création d'entreprise, tu peux aussi faire quelque chose de qui ressemble à ça, tu vois, qui ressemble à l'atelier.
Ok. Donc tu t'y es plus, t'as rencontré de nouvelles personnes, t'avais en gros c'était un travail, tu travaillais toute la semaine.
Ouais, c'est ça. En fait, avec les vidéos, on peut penser que c'est un peu, enfin on peut avoir une image un peu différente, mais c'est un vrai travail en fait. Missor, c'était mon patron.
Mais déjà, comment est-ce que tu définirais c'est quoi votre mission à l'atelier Missor? C'est les statues, c'est le les bus.
C'est la production en fait, la production des statues des bus. Donc il y a plusieurs étapes, hein. Il y a la création de la statue en elle-même avec le moule, il y a les corrections, le vernissage, la dorure, tout ça. Et après il y a d'autres personnes qui travaillent sur les vidéos, sur les vidéos sur le YouTube de l'atelier Missor, sur le marketing, la communication, tout ça.
OK. Mais de l'extérieur, moi, lorsque je pense à l'atelier Missor, c'est pour moi une micro-société que vous avez recréée, où vous vivez avec vos valeurs à vous. Ouais. Comment est-ce que tu... En fait, c'est moi, quand la première fois que je suis tombé dessus, c'était probablement avec tes vidéos, mm-hmm. ou alors celle de Florent. Mm-hmm. Et en effet, je commençais à avoir des bustes un peu partout. Je me dis, ça vient d'où, tu vois, ces bustes de Napoléon. Il y a Napoléon, il y a Peterson. Je me dis, ça vient d'où? Et après, j'ai vu vos vidéos et je me suis demandé comment est-ce que toi, qui as travaillé dedans, tu définirais c'est quoi l'atelier Missor? C'est quoi le but, en fait, à part la production de statues?
Ok. Bah, déjà, je pense que je suis... cette question-là, il faudrait la poser à Missor. Mm-hmm.
Oui, c'est vrai que c'est pas toi le Toi, tu étais salarié de cette boîte, du coup.
Exactement, exactement. Donc, l'atelier Missor, c'est la vision de Missor. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut créer, ce qu'il veut faire.
C'est quoi que t'en tirerais, les enseignements que t'as appris en travaillant là-bas? Ou les valeurs qui t'ont le plus marqué de...
Déjà, moi, en fait, j'avais ce truc-là que... Le plus gros apprentissage que j'ai retiré de ça, c'est par rapport au salariat. En fait, moi, si tu veux, comme je t'ai dit, j'ai été bercé avec Antoine BM, avec même Autodisciple et d'autres personnes. Donc, dans ma tête, c'était quasiment le salariat, pour moi, c'est mort. Et aussi parce que dans mon entourage, il y avait des gens qui disaient « Oh, mon patron me fait chier, mes collègues me font chier, ça me saoule. » Et donc, je me suis dit « Ok, le salariat, mais laisse tomber, ce sera pas pour moi. Je veux faire quelque chose tout seul. Je veux créer des entreprises, des projets. Je veux pas être salarié. » Et donc là, mon année à l'atelier Missor, c'était vraiment une année du test du salariat. Et donc, j'ai eu plusieurs périodes où je me suis dit « Bah, en fait, le salariat, c'est bien. Il y a ses avantages. Il y a des moments où j'étais en mode « Bah non, en fait, ils ont raison, ça fait chier, c'est trop chiant. » Et voilà, j'ai des périodes où j'apprends, et ça, c'était ma plus grosse leçon. Ma plus grosse leçon que finalement, le salariat... Enfin, il y aurait tellement de trucs à dire, mais de toute façon, il y a ses avantages et ses inconvénients. Pour moi, là, c'est aussi, pour répondre du coup à ta question, pourquoi j'ai quitté l'atelier Missor, c'est aussi parce que j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour de ce que je pouvais apprendre là aujourd'hui. Pour moi, c'était une année où j'ai appris ce que je devais apprendre là, et là, je vais passer à autre chose, et on verra comment ça se passe.
Mais tu l'as pas encore dit sur YouTube que tu avais quitté l'atelier encore.
Non, non, non.
C'est une exclue, là.
Ouais, c'est une exclue, ouais.
Toi, tu me l'as dit parce qu'on a discuté en DM, et j'ai fait « Ah, ok ». Je m'étais demandé justement si c'était à cause d'une embrouille ou si c'était par, comme tu l'as dit, par envie de faire d'autres choses, d'être plus indépendant. Mais donc, d'après cette expérience du salariat, alors moi j'ai eu une petite expérience du salariat, j'ai eu un mois saisonnier en tant qu'étudiant, le travail classique l'été en gros. Mais c'est vrai que je dirais que quand on voit des vidéos sur l'indépendance, sur devenir son propre patron, on peut vite avoir tendance à détester d'avance le salariat sans avoir aucune expérience du salariat.
Ouais.
Donc, c'est intéressant que tu en aies eu.
Faut tester quand même,
Et toi, c'est une vraie, parce que moi, c'était un mois, toi, c'est un an. Mais c'est vrai qu'en soi, si on réfléchit au salariat, si tu fais un travail que tu aimes et que ton entourage pro, tu l'aimes aussi, et que tu n'as pas trop de mal à supporter l'autorité, et que c'est pas à toi de prendre toutes les décisions, en vrai, ça peut, c'est pour ça que ça correspond à beaucoup de personnes. Mais souvent, le problème, il vient de l'entourage pro. C'est les fameuses discussions à la machine à café. Exactement. Honnêtement, moi, c'était la pire chose, moi, parce qu'en fait, c'est tellement pas des discussions intéressantes que t'as quand je travaillais dans ce travail l'été, alors que j'étais entouré de gens qui, sûrement individuellement, étaient intéressants. Tout devient chiant, en fait, quand tu parles à la machine à café. Parce que tu parles juste de l'actualité, des sujets où personne n'a vraiment un avis si nouveau. Et en fait, moi, les discussions les plus intéressantes, c'est lorsque je suis avec des personnes. Que je discute avec des personnes passionnées ou qui sont seules, tu vois, juste on discute tous les deux et là on a des vraies discussions intéressantes. Et moi, c'est plutôt ça qui m'avait dégoûté d'avance du salariat, et ça m'a confirmé ça lorsque j'ai travaillé un mois, c'est qu'en effet je peux pas vivre un an et avoir juste des discussions comme ça la journée, quoi. Et puis surtout, le travail en lui-même me plaisait pas, alors que toi, ton travail, on va dire que donc toi ton travail c'était quoi ton travail dans la création des...
Moi c'était la production des bustes, faire les bustes. Mais justement, on parlait de ça, on parlait aussi de son environnement de travail, qu'on avait dit que moi ça facilitait la chose parce que j'étais avec des gens qui maintenant sont devenus des amis et que j'adore. Forcément, ça facilite la chose, mais ça n'empêche pas que de toute façon, enfin, le métier en lui-même, les tâches que je faisais, c'est pas la chose. Tu vois, si on me payait pas, jamais de la vie je fais ça. Je faisais ça parce que j'avais un salaire à la fin du mois, mais c'est pas ce que j'aime faire.
Ok. C'était pas. Après, est-ce que tu penses que c'était le meilleur job salarié que tu pouvais faire, dans le sens c'était une activité manuelle, pas forcément pour toi tous les jours passionnante, mais il y a pas forcément d'autres activités que tu devrais faire.
Oui, c'est ça. Ben moi, en fait, normalement, tu vois, quand je t'ai dit que je me laissais un an sur YouTube. Pour faire du YouTube après ma licence, je comptais pas travailler, c'était vraiment que sur YouTube, sauf si j'avais une opportunité un peu différente, et c'était là l'atelier Missor, parce que c'était tellement différent. Ce que Missor a fait, c'est quand même fou, c'est-à-dire que en fait t'as une audience sur YouTube, et en fait tu vas créer des statues, des bustes de personnages que tu vas vendre comme ça. Enfin, c'est
en tout cas, c'est novateur.
Personne d'autre fait ça. Oui, c'est carrément novateur.
Et du coup, c'est facilement reconnaissable.
Ouais.
parce que en effet la vente de statues, il y en a pas il y en a pas 10 000 qui font.
Et moi c'est vraiment, c'est le projet entrepreneurial qui m'a fait venir à l'atelier Missor, parce que je l'ai trouvé fascinant.
OK. Et donc en soi toi tu avais un bon environnement de travail, tu aimais bien tes collègues.
Ouais.
En soi l'activité manuelle, c'était pas ta passion, c'était sûrement répétitif aussi mais c'était pas tu détestais pas aller au taf le matin pour faire ça?
Non. Bon après en fait c'est ça, c'est en fait avec les vidéos YouTube, on peut avoir une vision très comment dire? Enfin c'est tout le temps bien.
C'est un best-of de toute façon que les vlogs, c'est des c'est les vlogs à l'atelier, c'est des best-of.
Mais il y a forcément moi il y a des journées où ben ça m'emmerdait de me lever pour aller travailler, tu vois, comme tout le monde.
Okay.
Mais
de toute façon même quand tu fais quelque chose que t'aimes, si tu dois faire quelque chose, c'est là où
c'est vrai.
Et c'est même pour beaucoup de youtubeurs, quand ils ont créé leur, quand ils commencent à structurer leur, leur entreprise, bah, ils doivent tourner des vidéos. Mmh. Et quand tu dois tourner des vidéos, c'est pas toujours pareil que quand t'es un peu un artiste qui fait ses vidéos quand il a envie, etc.
Ouais, c'est clair, ouais.
Mais donc, toi, t'avais beaucoup d'avantages quand même dans ce travail salarié, l'environnement, tu comprenais peut-être l'importance de faire ce travail. Il y avait, c'était pas comme si tu remplissais des documents,
oui,
tu vois.
Sûr,
il y avait sûrement d'ailleurs les bustes. C'était, est-ce que t'as une personne que si tu devais choisir un buste, tu prendrais lequel toi par exemple?
Bah j'en ai quelques-uns chez moi du coup.
Mon préféré,
enfin celui que je trouve, je pense le plus beau pour moi, c'est le Napoléon, la toute dernière version avec la couronne dorée.
Okay.
Pour moi, c'est vraiment le plus beau. Après, t'as aussi le beau en termes de, enfin, comment dire. Enfin, le Chopin aussi est très beau. Juste, il est très bien fait. Et sinon, mais là, je pense que tu me disais plutôt le personnage que je.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
C'est l'esthétique.
Ouais.
Mais oui, par rapport aux valeurs que ça représente, ou je sais pas.
Bah, pour moi, ceux qui me touchent le plus, c'est Napoléon et Marc Aurèle, je pense.
Ok.
Ouais.
Donc, moi, je connais Napoléon de nom, j'allais dire comme si c'était un. Ouais, j'ai vu qu'il. Je le vois passer sur mon feed Insta parfois. Alors, Marc Aurèle, ça me parle plus parce que moi, j'aime beaucoup les citations, tu vois. Mm-hmm. Il y a des gens qui aiment pas les citations. Par exemple, bah, je comprends le côté citation Instagram, tu vois, les citations classiques.
Ouais,
mais je trouve qu'il y a vraiment de la profondeur dans certaines citations.
Oui, oui.
Et par exemple, il y a Victor Ferry.
Ouais.
Tu vois qui c'est.
Ouais.
Lui, il avait dit qu'une citation, c'était un échec pour lui de citer quelqu'un. Parce qu'en gros, il trouvait pas une meilleure manière de. C'est comme s'il n'avait pas trouvé des meilleurs mots que la personne qui avait créé la citation.
Ah,
j'imagine.
Okay.
C'est ce qu'il voulait dire.
Ok, d'accord.
C'est un échec un peu pour lui.
Okay.
Alors que moi, je trouve que c'est. La citation, parfois, elles sont tellement parfaites que je peux pas trouver mieux. Enfin, j'accepte l'échec.
T'acceptes, ouais. T'abandonnes.
Et donc, Marc Aurèle, pour moi, c'est un gars, je le connais très bien. il a des citations qui sont incroyables.
Ouais.
Et son livre Penser pour moi-même, je l'ai même pas lu en entier.
Okay.
Alors que franchement, j'ai pas d'excuses, il est tout court. Je me rappelle, je l'avais lu un été comme ça, je m'étais posé et je l'ai même pas fini, mais les 10 premières pages, déjà il y avait plein de petites citations ou juste des mots des phrases très courtes et bien résumées. Mais du coup, Marc Aurèle, ça me parle un petit peu plus.
Ouais.
Et par exemple, c'est Marc Aurèle, c'est pour les valeurs que ça ou les idées de Marc Aurèle. Je vais pas te demander, genre, c'est quoi l'idée de Marc Aurèle que t'as le plus aimé, parce que peut-être que t'en as pas.
Non, en vrai, si je peux te. Tu vois, le truc, quand j'ai lu Les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle, ce que j'ai vraiment retiré de ce livre, c'était. En lisant ce livre, j'avais peur de la mort avant. Et après avoir lu ce livre, j'étais beaucoup plus tranquille par rapport à ça. Parce qu'il explique vraiment que, en fait, on est que des atomes, et quand on meurt, en fait, c'est juste. C'est la
C'est quoi le mot?
Si je commence à mal expliquer.
Oh, il t'en voudra pas, hein.
Non, mais...
Il va pas striker la vidéo, hein.
Non, en gros, ce que je voulais dire, c'est que juste, enfin, quand tu meurs, c'est une phrase con, mais quand tu meurs, tout est fini. Il n'y a pas à avoir peur de la mort, il n'y a pas à avoir peur d'une souffrance, parce que de toute façon, tu ne seras plus là pour la subir. C'est juste la continuité des choses, la continuité de la vie sur Terre. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Je pense que quand les gens ils disent qu'ils ont peur de la mort, ils ont peur de la menthe lore et de la mort lente et douloureuse, tu vois.
Tu penses? Il y en a beaucoup qui angoissent de ne plus exister, de ne plus être sur Terre.
Mais en vrai, je pense que la mort, parce que nous on est toujours influencé par la pop culture, la mort dans les films, elle est jamais comme dans... C'est jamais la mort dans le sommeil, tu vois.
Ouais.
C'est toujours la mort assassinat, le mec qui meurt trop... Il s'est fait brûler, il est mort noyé. C'est pour ça que la mort fait peur, je pense. Alors qu'en soi, la personne qui s'endort dans son lit, je pense que pas grand monde en a peur. On a toujours pensé... Je pense qu'on pense aussi, tu vois, à la mort dans l'hôpital, tu sais. La mort, on la voit venir, on est dans un lit d'hôpital, ça fait plus peur. Parce que je pense qu'elle représente plus le regret, celle-ci. Mais en soi, moi, par exemple, ça me fait pas du tout peur de mourir dans mon sommeil. Parce qu'en effet, si je meurs, je suis pas là pour... C'est difficile pour la personne qui reste, en fait. Moi, personnellement, je sais pas à quoi ça ressemblera après, forcément, mais ce sera pas douloureux, ça. Ce qui me fait peur, moi... c'est plutôt la mort en plusieurs étapes. La mort où j'ai un accident, je vais à l'hôpital, je prends le temps de prendre conscience de toutes les choses que j'ai pas pu faire, et donc j'ai du regret et je me sens mal au fond, et ensuite je meurs en fait dans la douleur, mais c'est pas la mort qui est douloureuse, c'est toutes les semaines d'avant où j'ai pris conscience de tout ce que j'avais pas fait.
Moi je pensais pas du tout à ça, tu vois.
Moi c'est plutôt le côté, ouais, c'est ça, c'est la maladie, c'est la mort lente et douloureuse, c'est le regret, surtout moi. Et souvent, en effet, c'est vrai que la mort, elle n'est pas toujours immédiate. T'as le temps, souvent, de la voir venir, et c'est ça qui me fait peur, en fait. C'est plutôt ça.
D'accord, de voir
venir. C'est toutes les pensées que j'aurais avant, tu vois.
Ouais.
Parce que déjà, quand je regrette quelque chose que j'ai pas fait, mais un truc du quotidien ou une opportunité que j'ai pas saisie, quand je vois le nombre de réflexions que je me fais parfois, quand c'est pour ta vie, tu vois,
t'es pas bien.
Et c'est pour ça que je suis content aussi des personnes qui, justement, on parlait des personnes qui nous ont appris des choses, les personnes qui m'ont poussé qui m'ont montré que le temps était précieux, tu vois, le temps était limité. Et toute personne qui m'a incité à prendre de l'action dans mon quotidien et d'utiliser bien mon temps, j'en suis reconnaissante à 1000%, tu vois, c'est le meilleur enseignement possible, selon moi. D'ailleurs, t'as un tableau qui s'appelle le Memento Vivere.
Ouais, c'est ça.
À l'inverse du Memento Mori.
Ouais,
c'est Memento Mori, c'est n'oublie pas que tu vas mourir. Et le Memento Vivere, c'est
Rappelle-toi de vivre.
Rappelle-toi de vivre. Ouais. C'est vrai que ça peut faire plus optimiste que n'oublie pas que tu vas mourir.
Ouais.
Mais d'ailleurs, t'avais fait un TikTok pour présenter ce tableau-là. Et tout le monde disait, parce que moi j'ai eu les mêmes remarques sur quand j'avais parlé du Life Calendar aussi, ça s'appelle comme ça. Donc pour les personnes qui écoutent le podcast ou qui voient la vidéo, c'était juste l'idée d'avoir un tableau composé de cases ou de cercles, et chaque point, chaque carré représente une semaine de notre vie, et donc à la fin ça fait un grand tableau avec plein de cases, et faut noircir les cases le temps qui est passé, en fait, pour visualiser le temps qu'il reste.
Exactement.
Et nous, par exemple, nous on aime bien ça, parce que ça nous montre que le temps est limité et que c'est pas une ressource illimitée dont on peut se foutre, en fait. Et toi, t'avais présenté ce tableau là sur TikTok, et tout le monde disait ouais, ça me stresse, et c'est quoi ton avis par rapport à ça?
Je pense que ouais, c'est des personnes qui n'ont pas réfléchi à ça, qui n'ont pas réfléchi à si on se dit tous qu'on va mourir un jour, mais qui n'ont pas vraiment pris le temps de faire maturer l'idée dans leur tête. Et là, quand tu vois ça, c'est vrai que c'est choquant, en fait, ça choque. Et en même temps, je les comprends, hein. Mais il y a eu aussi quelques commentaires qui me disent c'est vrai que ça m'a mis une claque, et du coup ça me fait prendre conscience que, tu vois, là j'ai envie de faire ça, il faut vraiment que je le fasse.
Mais moi, je suis d'accord, le côté... En fait, la première fois, ça te choque un petit peu. Genre, on pense tous que notre vie, elle est... on va avoir 10 000 nouveaux étés, 10 000 nouveaux Noël. Et on aime bien se dire qu'on a ça en illimité, en fait. Et je pense que quand tu prends conscience qu'en fait, non, il te reste... Alors, je vais pas estimer, parce qu'en plus, il y a l'aléa de la vie.
Ah oui, complètement, oui.
Et en effet, ça peut choquer, je pense, au début. Et moi, ça m'avait fait... l'autre jour, je me suis juste rappelé qu'une année, c'était 40 semaines, je crois, ou 44. C'est rien du tout.
C'est
quand tu vois qu'une semaine, ça passe vite maintenant. c'est rien du tout.
Non, c'est rien du tout.
Et même 5 ans, ça fait donc 200 semaines.
Ouais.
Alors comme ça fait beaucoup, mais en vrai, c'est pas beaucoup.
Ouais, ouais.
Et moi, ça m'aide en tout cas. Toi aussi, dans ton quotidien.
Ouais, ouais.
Mais c'est vrai que même mes amis, ça faisait débat dans mes amis. Ah non, moi, je veux pas ça chez moi. Je veux pas d'un calendrier qui me rappelle qu'il me reste que quelques dizaines d'années à vivre en vrai. Mais ça, c'est un truc de philo, tu vois.
Ouais.
C'est des discussions de philo un peu qu'on a, mais c'est pas comme on dit pas que c'est de la philo, c'est pas chiant.
Ouais, ouais, ouais. Elle est pas mal ta théorie, ouais.
Mais non, mais je suis sûr, il y a plein de trucs comme ça.
Raison, ouais.
Qu'est-ce que même le développement personnel, c'est mal connoté ou en tout cas c'est vu comme le cliché des stations Instagram, des TikTok qu'on va passer avec la musique inspiration et tout. Mm-hmm. Mais en vrai, moi, je trouve qu'il y a rien de plus noble que de s'améliorer personnellement et d'essayer de pousser son entourage vers le haut en même temps, tu vois. Mais faut pas dire que c'est du développement personnel.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le mot à ne pas dire en fait.
Faut dire j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de progresser.
Ouais, c'est ça. Mais faut plus dire développement personnel.
Non. Ouais. Et moi, je sais même pas ce que je dis, j'ai pas trouvé encore de
Ouais, faudrait qu'on trouve un
substitut. Je suis passionné par le progrès, tu vois. L'amélioration. Et même si je commence à dire le plein potentiel, aïe, ça commence à ressembler au développement personnel, tu vois. J'arrête de dire mindset. J'ai banni le mot mindset de mon entourage, alors que je trouve que c'est un mot parfait. Genre, c'est trop intelligent ce mot.
Ouais.
Mindset, c'est le réglage de l'esprit.
Okay.
C'est tellement vrai, tu vois. Mmh. C'est tellement ça. Bah, tu vois, quand t'as parlé des youtubeurs qui t'ont inspiré, ils t'ont changé ton, ils t'ont rajouté de nouveaux réglages, tu vois. Ils t'ont fait une mise à jour.
Ouais, ouais.
C'est mindset.
Ouais.
C'est le réglage de l'esprit.
Ouais.
Mais comme c'est connoté des moments personnels, maintenant, j'évite de le dire.
Ah ouais, je comprends. Ouais, je comprends complètement. Ben, en réalité, moi, pareil, hein. Genre, je ne dirais, quand on dit tu fais des vidéos de quoi, je vais jamais dire développement personnel.
Ouais.
Parce que c'est trop mal connecté. Mais en réalité, c'est ça. Enfin, je cherche juste à progresser.
C'est ça.
Mais pourtant, je trouve, enfin, pour moi, chaque humain est comme ça. C'est l'humain ne veut que évoluer et avoir plus de ressources, plus de pouvoir, plus de tout.
Ouais. Et j'ai l'impression que, alors ça, c'est une théorie que je m'étais faite aussi. Et je m'étais demandé quand est-ce que ça s'arrête en fait.
Ouais.
Parce qu'on ne peut pas avoir tous plus de pouvoir à un moment, ou alors parfois on peut se perdre soi-même dans le processus.
Ouais,
et je m'étais demandé justement, est-ce que la vie, ce n'est pas deux phases? La première phase où tu as toujours plus pouvoir, influence, en tout cas si ça, c'est un truc qui t'intéresse, ou même pas forcément pouvoir, juste t'améliorer toi.
Mm-hmm.
J'ai l'impression qu'il y a deux parties. Donc la première partie, amélioration de soi, on va dire. Et la deuxième partie, c'est gratitude.
Ouais.
En gros, j'ai l'impression qu'on est tous faits pour vivre deux vies.
Mmh.
La première, j'estimerais de 20 à 50, 55, où tu t'améliores. T'améliores ta condition physique, tu t'améliores toi personnellement, t'apprends des choses.
Mmh.
T'essaies de transmettre ça à ton entourage, d'améliorer ton entourage en même temps, de créer aussi un entourage, une famille. Et t'as la phase de gratitude où tu regardes ce que t'as fait avant et t'es content de ce que t'as fait.
Mmh.
Un peu, et pour moi, il y a que pour moi les sportifs professionnels et les carriéristes, enfin les gens qui ont une carrière sur la courte durée qui font ça.
Okay.
Parce qu'ils ont tellement concentré leurs efforts sur une courte période qu'après, de toute façon, ils n'ont plus la condition physique parfois de performer. Donc, ils peuvent que apprécier le chemin d'avant et être contents de ça, en fait.
J'ai l'impression que c'est le parcours le plus sain possible. Parce qu'après, tu sais, t'as la personne qui cherche toujours plus. Et au final, elle est détruite, elle est malheureuse.
Ouais.
Et
justement, moi, j'avais du mal à estimer le moment où tu devais passer d'une phase de monter à une phase de gratitude, tu vois. Surtout que ça peut être vu comme un échec quand tu arrêtes quand t'es connu dans ton entourage comme la personne qui s'améliore et que tu dis maintenant je vais profiter. Mais après, il y a aussi les personnes qui n'arrêtent jamais vraiment, mais qui le font de manière moins professionnelle, sont plus des professionnels de ça et qui vont juste pratiquer ce qu'elles aiment de leur côté. Genre elles vont faire leur tableau de leur côté, faire leurs vidéos de leur côté. Bon, ça c'est pas possible. Tu vois, tu peux pas faire des vidéos juste de ton côté si c'est sur YouTube. Mais il y a des gens qui vont juste faire une carrière de quelque chose et après ils vont le faire pour la passion, tu vois. Je trouve ça beau. Mais ça concerne plutôt les métiers créatifs, tu vois.
Ouais.
Tu peux pas faire ça pour
comme tu as dit.
Et parfois même il y a tellement de problèmes aussi, ça dépend tellement des cas. Il y a aussi des footballeurs qui sont en dépression après parce qu'ils peuvent plus jouer au foot de manière professionnelle, tu vois.
Ouais.
Donc d'ailleurs, comment est-ce que toi t'imaginerais, c'est quoi ton plan de vie parfait, même si il va forcément changer au cours des années. Déjà, c'est quoi maintenant ton objectif, maintenant que t'es plus salarié, que t'as plus de temps pour toi?
Ok. Moi, je dirais que c'est retester des nouvelles choses. Tu vois, j'ai fait le test de entreprendre tout seul, j'ai fait le test du salariat, là j'ai fait le test du chômage. Et après,
c'est quand ça?
Ah, là c'est maintenant le test.
Tu te considères chômeur en ce moment?
Ah oui, bah, je suis allé à Pôle emploi.
Mais t'as pas d'entreprise avec YouTube?
Si, mais tu peux cumuler les deux. Après, il y a des trucs à faire, mais tu peux avoir les deux. Et là, je vais faire tester entreprendre à plusieurs. Et ta question, c'était quoi? C'était qu'est-ce que
maintenant que tu as plus de temps, c'est quoi déjà ton plan de vie parfait, mais déjà dans un an
Là, j'ai fait mes objectifs sur 3 mois. Il y a un mois, donc là, c'est donc YouTube. J'ai toujours l'objectif de YouTube. Après, j'ai des objectifs sportifs et objectifs de compétences, développer une compétence, donc apprendre le chinois.
Monter ta valeur toujours.
Ouais, c'est ça. Ouais. Donc augmenter une compétence. Et après, c'est l'autre projet que je fais avec mes potes que j'ai rencontrés à l'atelier, donc Grifton. Et donc j'ai ces 3 trucs-là que je vais développer de mon côté et voir ce que ça donne.
Ok. Et sur la vie de manière générale.
Sur la vie générale, je pense que moi, mon but ultime, c'est d'avoir ma petite famille, ma femme, mes enfants, ma maison et tout.
C'est beau. Et ouais, c'est marrant, c'est plus cité dans les objectifs, ça, maintenant.
C'est plus cité?
C'est de moins en moins cité.
Ouais, c'est vrai.
Alors c'était vu comme un échec avant, genre le gars, il veut juste se poser, tu vois, alors que c'est trop beau de se poser, j'imagine.
Ouais, c'est clair.
Enfin, j'espère, tu vois, parce que c'est aussi un objectif que j'ai, c'est un peu mon idéal, tu vois. Et je sais pas, bon, sans peut-être la voiture, la fameuse voiture, là, tu sais, la voiture de famille que tout le monde...
Ok, ouais.
Comment ça s'appelle c'est la Renault Scénic, ouais, tu vois.
Ouais,
c'est ça. Mais c'est un peu cliché des gens, justement les gens qui parlaient d'indépendance, ils disaient toujours ouais, moi je veux pas la vie de famille, le Renault Scénic, etc.
Ouais.
Mais en vrai c'est sûrement cool.
Ouais, mais après tu vois, je me dis peut-être que là, je sais que c'est un peu mon idéal et vraiment j'idéalise ce truc, mais j'ai peur de, une fois que j'y suis, de me dire, ah putain, c'est peut-être pas ça que je veux.
Parce que c'est clair qu'après, t'es verrouillé, quoi.
Ah bah là, ouais, là, c'est sûr.
C'est clair.
Donc je pense qu'en fait, il faut que je teste un peu tout avant. Comme ça, il me restera plus que ça.
Ouais, mais c'est ça le mariage, tu peux pas tester, quoi. Tu peux pas.
C'est pour ça qu'il faut le faire en dernier, comme ça, c'est fini, ouais.
Par contre, ça, c'est vrai, c'est une bonne leçon, c'est de bien se connaître avant de se marier.
Ouais.
Aussi important que de se marier avec une personne qu'on connaît bien.
Ouais, ouais.
Déjà, bien se connaître.
Bien se connaître, ouais, carrément.
Mais ça, c'est carrément. Du développement personnel, hein. N'en déplaise à ceux qui critiquent. Pour moi, j'espère que je serai un bon mari parce que je me connais très bien, donc je me connais très bien, je saurai les phases dans lesquelles je peux passer si je rencontre certains événements ou pas. Enfin bref, je saurai bien gérer mon temps. Donc en vrai, ouais, c'est clair, de mon personnel, ça t'aide à, pour moi, être un meilleur compagnon, père aussi de fou.
Ouais.
D'ailleurs, ça change complètement du sujet des sujets qu'on a abordés, mais pour moi. Chaque parent devrait avoir au moins lu une fois un livre sur être un bon parent, tu vois.
Et c'est trop drôle que tu dises ça parce que, tu sais, qu'il y a peut-être genre, je sais pas, 3-4 ans, j'avais cette pensée, je me disais, je lisais des livres et je me disais, avant d'avoir un enfant, je vais lire 50 livres sur le sujet pour vraiment faire le truc bien, tu vois. Ah, c'est drôle qu'on ait eu la même pensée, mais je suis complètement d'accord.
Mais même, j'achète une voiture télécommandée, je lis la notice.
Ouais.
Tu vois, je fais un enfant, bah, il n'y a pas de notice, je lis un livre.
Ouais. Complètement d'accord.
Alors après, je pense qu'on va tomber dans les mêmes... T'as toujours il y a 2 niveaux de lecture. T'as le niveau où tu lis juste pour apprendre, et t'as le niveau où t'arrives à reconnaître l'auteur, parfois l'influence que veut avoir l'auteur sur toi, tu vois.
Okay.
Il y a un mot que je cherche qui représente un petit peu mieux ça, mais en gros, quand le livre, il est connoté. Mm-hmm. Pas connoté, c'est toujours pas le mot que je cherche, tu vois, mais...
Quand l'auteur va essayer de t'influencer, c'est ça.
Ok. En gros, il y a un niveau. C'est comme les livres de développement personnel. Il y a plusieurs courants, mm-hmm. tu vois. Mm-hmm. Et t'as les auteurs qui vont plus te pencher, notamment Gary V ou Gary V qui propose lui plutôt de d'être content de ce qu'on a aussi, gratitude à fond.
Bien sûr.
Et t'as les auteurs qui vont plutôt dire non, il faut toujours plus pour être de plus en plus fier de toi.
Okay.
Bah, je pense que pour les livres pour les parents, il y a aussi ça.
Oui, bien sûr.
Je suis sûr qu'il y a des parents.
Ouais.
Rien que sur l'autorité, par exemple, du père. Je suis sûr qu'il y a des auteurs qui vont se prononcer pour dire que le père, faut pas qu'il représente l'autorité. Il y en a qui vont dire peut-être que c'est interdit de, je sais pas, ne serait-ce que la fessée, c'est interdit.
Ouais,
tu vois, je me pose la question parce que j'ai pas encore lu sur le sujet.
J'ai pas pensé, mais ouais, t'as raison.
C'est pour ça que t'as raison de lire plusieurs livres, je pense, sur le sujet pour trouver un équilibre entre tout ça. Parce que sinon, en vrai, je me dis, si tu lis juste un livre, ne serait-ce qu'un livre, tu vas juste avoir la vision d'une seule personne sur être un bon père ou une bonne mère, tu vois. Donc en vrai, il faudrait lire plusieurs livres. Et ça se trouve, dans 10 ans, je ferai une vidéo 10 livres à lire pour être un bon parent.
Mais c'est sûr qu'il y aura des vidéos comme ça sur YouTube. Bah, il doit en avoir déjà, mais...
Déjà, je vois qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui annoncent leur le fait qu'ils soient parents sur YouTube. Ouais. Mais j'en ai rarement vu faire une vidéo retour d'expérience... Parce que c'est toujours le même retour d'expérience. Genre, oh, c'est chiant, il fait passer nuit. Oh, ouais, c'est chiant. Alors, déjà, je pense que ça plaît. Ça fait du bien aux personnes qui sont dans cette période actuellement. Mais c'est vrai que j'ai rarement vu un youtubeur se prononcer sur ses conseils pour être un bon père.
Ouais, c'est vrai que c'est. Ouais. Après, ouais, je pense que c'est pas un sujet facile. Et chaque parent a peut-être son modèle d'éducation vraiment propre à lui.
Puis j'imagine que tous les enfants sont différents. Ouais. Déjà, quand je vois mes animaux, ils sont tous différents, tu vois. Ouais. Et donc lire un livre sur comment bien occuper, comment faire que son chat est heureux, tu vois. Mmh. Bah moi mes trois chats, il faut tous qu'ils aient une vie différente pour qu'ils soient heureux. Okay, ouais. Donc j'imagine que pour les enfants c'est pareil. Donc ouais. En vrai c'est compliqué, hein. Ouais. Mais là ouais, donc les parents, oui on parlait des parents parce que c'est ton objectif de vie.
Ouais, ouais c'est ça. Ouais.
Et à quelle date tu te verrais être père?
Bah en fait je me suis dit il faudrait entre 28 et 30 ans. En fait j'aimerais bien. Ah, tu sais, quand lui devient adolescent ou quoi, ne pas être trop vieux. Mais bon, après, en fait, comme ça se rapproche de plus en plus, et il faut que je fasse, des choses. Ouais, ouais, voilà, ouais. Mais ouais, non, je dirais, allez, 30, je pense 34 grand max.
Mais j'ai posé la question à des potes et ils me disaient plutôt, j'en ai qui sont chauds à 26, à 28, même à 25.
Bah, moi, c'est ce que je dis des fois, genre, si j'étais pas youtubeur, je pense que j'aurais déjà des enfants, là.
Ouais.
Parce que j'ai trop envie d'avoir des enfants.
Mais moi aussi, mais c'est pas dans mon...
Ouais, non, non, faut attendre. Faut attendre un peu.
C'est vraiment pas dans mon... C'est impossible, genre déjà... non, non, faut que j'ai mon bouton des 1 million d'abonnés avant d'avoir un enfant. Mais l'enfant, il est né. Regarde, ça, c'est le trophée de papa. Regarde ce que papa, il a fait. Pour avoir quand même des choses à raconter à l'enfant.
Ouais, ouais, c'est vrai. Mais bon, après, t'as ces 5 premières années, il va rien comprendre. Donc, t'as le temps de faire des...
D'ailleurs, j'ai une autre petite théorie sur les enfants. C'est que pour moi, je vois pas l'intérêt de faire des cadeaux à des enfants avant qu'ils aient 2 ans et demi.
Ah, ouais.
C'est vrai. Mais...
Parce qu'ils ont pas de mémoire.
Ouais, mais après, tu vois, il y a leur doudou qui garde jusque...
C'est une blague. Mais c'est une réflexion que je me suis faite parce que je voyais maman qui. On a eu un neveu qui est né dans la famille, donc moi je suis son parrain. Ma mère, elle a passé une après-midi entière à dire: ah non, faut pas qu'il ait ça, ce jouet-là il est pas aussi bien que celui-ci. Elle faisait un comparatif des meilleurs jouets.
Okay.
Et je me suis dit: c'est quand même beaucoup d'efforts pour un enfant qui a pas encore l'âge de se souvenir, tu vois, c'est des clair, cadeaux qu'il doit. Et là j'ai réalisé, je fais: attends, mais en fait, en vrai, il faudrait attendre qu'ils aient la mémoire avant de leur faire des cadeaux, pour au moins qu'ils aient le souvenir que des gens leur ont offert un cadeau. Et c'était une blague, c'était ma petite théorie que j'avais développée à ce moment-là.
Okay, okay, okay.
Mais j'y crois pas, je pense qu'en effet, faut offrir des cadeaux tôt, même s'ils s'en souviennent pas, tu vois. T'as un peu les souvenirs inconscients aussi, rien que sur les photos, qu'il ait une enfance heureuse et qu'il ait des photos pour le voir après. Genre parfois moi j'ai l'impression d'avoir vu des choses alors qu'en fait c'est juste que j'ai vu une photo de moi petit, donc j'ai l'impression d'être plongé dans le...
Ah ouais, je vois très bien.
Tu vois un peu?
Ouais, complètement. Bah,
c'est de la philo aussi ça. Hein. Ok, donc vers 34 ans max.
Ouais, je pense. Ouais, je pense.
Ok, je vois. Mais en effet, on est d'accord qu'il faudrait des livres sur le sujet.
Ouais.
Mais il y avait même, je crois que c'était Sardoche qui a proposé de mettre en place un genre de bac. En gros, genre tu peux pas être parent si t'as pas au moins lu. Et il a dit, je m'en fous que ce soit même un truc pourri, genre le tu sais, le truc de sécurité routière qu'on a tous fait au collège là.
Ouais.
DS. Le DSR.
Attends. ASSR.
ASSR. Attestation sécurité routière, un truc comme ça. Genre, c'est facile, tout le monde l'a eu.
Ouais.
Mais alors, il disait, oui, juste un truc très facile, mais que tout le monde doit remplir. En vrai, je me dis, ça doit être galère à mettre en place quand même.
Bah ouais, parce que tu peux pas vraiment empêcher les gens d'avoir des enfants.
Et puis, il y a aussi la grossesse qui est pas forcément désirée, tu vois. Donc, tu vas pas obliger les gens en plus à passer un. Mais en gros, il donnait son point de vue. Et moi, je me dis, non, en vrai, pas à ce point-là. Mais au moins, dans la conscience. Qu'un parent ait lu au moins un livre sur un sujet, je pense. Mmh. Et en même temps, c'est vrai que il y a des parents qui sont des très bons parents, ils n'ont jamais lu un livre sur le sujet.
C'est clair, complètement. Ouais, ouais. Ah oui, complètement.
Bah, je pense mes parents, je crois pas qu'ils aient lu de livre sur le sujet. Ils en ont lu un sur l'adolescence à un moment, parce que c'est une phase différente aussi. Mais je crois pas dans l'enfance, et pourtant, c'est des très bons parents, tu vois.
Oui, c'est vrai que c'est pas obligatoire de.
Mais bon, nous, comme on est rentré dans cette étape de growth mindset,
on va lire des livres.
D'évoluer, en vrai, on va lire des livres sur un peu tout, je pense. Mais c'est beau en même temps de se faire accompagner dans toutes les étapes de notre vie, tu vois.
Mmh, mmh.
D'ailleurs, c'est un peu ça sur YouTube. Là, t'accompagnes des gens sur YouTube. Et bah, moi, comme je suis un peu dans la même étape que toi, tu m'accompagnes plus dans le sens où on a l'impression que on a un peu la même vie en ce moment. On n'est plus étudiant et on essaye de se débrouiller sur YouTube. Mais toi, j'imagine que tu accompagnes aussi des gens qui sont à la première étape du processus de se trouver, faire des choses de sa vie et tout.
Bah finalement, comme certains autres youtubeurs l'étaient pour moi, comme Autodisciple, Antoine
Ben, exactement. Torche qui se, la torche,
finalement, c'est ça, ouais.
Ok. Et donc, c'est quoi par exemple ta vidéo préférée ?
Sur YouTube, la mienne ou sur YouTube ?
Ta vidéo préférée à toi ?
En fait, je dirais que c'était peut-être les premières vidéos de l'année où je suis allé à l'atelier, parce que ça me rappelle des et un certain état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque, tu vois.
Ces vidéos-là, elles te plaisent parce que elles te rappellent cette période-là.
Ouais, je crois que c'est ça. Mais sinon, après, au niveau de celle que j'ai vraiment bien aimée, au niveau de la réflexion que j'ai développée, c'était travailler n'a pas de sens. Et même au niveau du montage et tout, il y avait des trucs qui me plaisent bien. Donc, je pense que c'est ma vidéo préférée.
Ok. Je crois que je l'ai vu aussi, mais je me rappelle plus donc du montage en particulier. Ouais. Mais c'est ça, c'est des sujets qui m'intéressent à fond, quoi. Il n'y a pas beaucoup de vidéos sur le sujet encore. Mais c'est aussi l'influence de Peterson, qui était un des premiers à parler de l'importance du sens dans sa vie.
Pour le coup, sur cette vidéo, c'était pas vraiment ça. Je sais même plus ce que je disais dans cette vidéo, mais c'était un peu. Je parlais justement de ma remise en question par rapport au salariat que j'avais, que finalement, c'était pas comme ce que je pensais, ce qu'on me laissait croire.
Ok, parce que quand je pense au sens, moi, j'imagine toujours Peterson. Ouais. Parce que moi, c'était un des premiers à parler du fait de l'importance du sens dans ce qu'on fait. Et de trouver du sens dans sa vie, surtout lorsqu'on est un jeune adulte qui commence à rentrer dans la vie active et qu'on se rend compte qu'en fait le sens, on a besoin de ça en fait.
Ouais.
Parce que petit, on nous le donnait avec l'école, on nous disait l'école c'est le, enfin ton sens tu le trouveras à l'école, tu le trouveras en faisant.
Ouais.
Et surtout, on te donnait des ordres en fait.
Oui, c'est vrai.
Et c'est vrai que quand t'es adulte, c'est à toi de trouver ton sens. Et si tu l'as pas, c'est la déprime en fait.
Ouais. Après, c'est ce que je disais dans cette vidéo, je crois que c'était surtout. Enfin, je disais ça n'a pas de sens parce que je disais ça parce qu'en fait ça prend une grosse partie de ta journée. Pour moi, 35 heures c'est énorme et ça te laisse le temps de rien faire à côté et juste t'es dans le travail. Juste, tu te lèves le matin, tu vas travailler, tu rentres chez toi, tu dors machin et tu peux rien faire à côté. Et c'était dans ce sens-là et que je me
C'est le circuit, le fameux boulot dodo. Et ça n'a pas de sens encore plus vu de si on prend un peu de recul sur ce qu'on est en train de faire de notre vie, de notre temps, c'est clair que ça aurait pas de sens en fait.
Ouais.
Et ça c'est aussi en effet je pense un truc qui t'a déplu dans les études, c'est le temps qu'on passe à apprendre des choses qui ont une valeur ajoutée parfois assez faible dans notre vie, alors qu'en fait en 2 heures par jour on peut développer une compétence qui change notre vie en fait.
Oui, c'est vrai, complètement.
Ça c'est, je dirais que si moi je devais faire une vidéo sur travail n'a pas de sens, je tournerais aussi un peu comme ça. Ou même j'avais fait d'ailleurs une vidéo sur les études, les révisions n'ont pas de sens.
Ok.
Moi c'était vraiment sur les révisions et je me disais je suis en train d'apprendre des choses que je vais devoir réapprendre dans quelques années de toute façon si je suis professionnel, ou alors je vais devoir apprendre des choses que 80% du temps je vais ne pas avoir besoin d'utiliser dans ma vie. Et c'est plutôt sur ça je me regardais en fait, c'est ça, de toute façon il y a assez peu de choses qui ont du sens quand tu les regardes.
C'est clair,
vrai,
avec la distance,
parfois je m'imagine. Ça me fait penser à ça quand je vois des caméras dans un restaurant, par exemple, où je suis. Genre, on est tous là dans on est tous des humains et on s'est réunis et on met de la nourriture dans une assiette et on mange tous cette assiette et on paye et on sort.
Ouais.
Et même un truc où parfois je fais du montage vidéo, genre j'adore cette activité, tu vois. Et je me vois de l'extérieur, je vois un Gus qui tape des touches sur un clavier comme ça, il fait du montage. Et après, les gens, même moi, je regarde une vidéo, j'adore. Et vu de l'extérieur, je suis un gars. Je fixe un écran et je peux le fixer 20 minutes, une heure, deux heures.
C'est trop bizarre.
Ça n'a pas de sens en fait.
Mais même ça là, genre.
Alors si, ça a du sens. Genre c'est des discussions.
Ouais, mais on les filme, tu vois, finalement. Genre pour que d'autres personnes qui peuvent aussi avoir des discussions nous écoutent et nous regardent sur leur écran.
C'est bizarre. Ouais, alors moi j'avoue que le podcast pour moi c'est un truc qui est très important dans ma vie, donc je dirais que ça a du sens. Ça.
Après manger aussi, c'est important.
C'est vrai, mais je parlais plutôt du resto, tous les trucs sociaux en fait,
ouais,
tout ce qu'on a créé.
Sociale, ouais,
parce
ouais.
que pour moi, les discussions, ça a toujours été présent dans toute la. Ça fait partie de notre évolution, c'est la nature de l'humain, tu vois.
Ouais.
Manger aussi,
ouais.
Mais les restaurants, non. Le fait de. Bah, si, manger en tribu, mais c'est pas une tribu le restaurant, tu vois.
Ouais, ouais, c'est pas un lieu où tu y vas juste pour discuter et manger.
C'est ça. Mais alors c'est vrai que le fait d'écouter des gens qui parlent comme si on était présent dans la discussion à travers un écran, ça c'est pas naturel. Mais je trouve que c'est ça aussi la beauté d'Internet, c'est d'accéder à des discussions auxquelles des gens ne pourraient pas avoir accès. Et moi parfois, moi je suis originaire de Normandie. Mec, autour de moi, dans mon entourage en Normandie, dans ma ville de 9000 habitants, il y a personne qui aurait pu changer ma vie, je pense, tu vois. Je pourrais avoir des leçons, mais parfois j'écoutais une vidéo d'un gars qui était aux États-Unis, je me disais j'ai accès à ce contenu-là, c'est incroyable.
Ouais, c'est clair. Incroyable. C'est clair.
Et donc ouais, en effet, par contre, c'est vrai que on peut de toute façon dès qu'il y a un écran et que tu prends du recul sur ce que la personne regarde sur l'écran, ça paraît tout de suite stupide en fait.
Oui, hein. Oui.
C'est pour ça que quand tu vois les parents qui disent à leurs enfants "Ouais, tu passes toute ta vie sur le téléphone" parce que eux ils voient l'enfant sur le téléphone et ça paraît stupide en fait parce que eux ils jouent à la gamelle, parce que eux ils faisaient des jeux dehors en extérieur, mais c'est vrai que parfois bon, ça peut paraître stupide, mais en même temps sur l'écran, tu peux apprendre tellement de choses aussi.
Ouais.
Mais c'est pour ça que j'aime bien les podcasts, parce que tu peux apprendre des choses et tu mets le téléphone ailleurs.
Ouais.
Et donc tu peux vivre ta vie quand même.
Ouais.
Tu peux courir, tu peux marcher, ouais. Tu peux faire des choses. Et en même temps, tu profites de, pour moi, la valeur ajoutée d'Internet, c'est la connaissance en fait. Mm-hmm. Donc pour moi, c'est le podcast, c'est l'avenir, c'est ce qui rassemble tout ce qu'il y a de bon d'Internet, enfin la meilleure chose d'Internet ever, la connaissance, le partage de connaissances. Et en même temps, ça t'offre le luxe de pouvoir vivre ta vie sans être attaché à l'écran en fait.
Ouais, je suis d'accord. Ouais.
Ok, donc je te pose la question juste parce que j'aimais bien savoir la vidéo préférée des youtubeurs. Et tu penses qu'à l'avenir, ta vidéo préférée ever, celle où tu vas être ton petit chef-d'œuvre?
Ouais, bah souvent c'est ce que je dis à mes potes, c'est que ma vidéo, ma vidéo, je l'aime bien jusqu'au moment où je la sors. Après, quand la vidéo est sortie une semaine après, je dis ah, elle est pas bien, tu vois.
Ah ouais?
Et donc à chaque fois, ma vidéo préférée, c'est souvent celle que j'ai sortie, la dernière que j'ai sortie. Pendant une ou deux semaines, et après ça s'arrête et je ressors une et c'est elle ma préférée.
Ok. Et c'est quoi la prochaine vidéo? Tu l'as en tête?
Ma prochaine vidéo, c'est quoi? Ah oui. Ah. Bah je peux le dire maintenant.
Oui.
En gros, je m'étais lancé le défi de quand quelqu'un me fait une proposition, soit je dis, en fait ma réponse par défaut c'est non, ou alors c'est un oui, mais si je suis à 100% chaud pour faire ce truc là, tu vois. Sinon c'est non direct, parce que tu sais, on se retrouve tous dans des situations où on dit oui. Et à la fin, on est dans un truc où on n'avait pas envie d'y être.
Horrible. Horrible.
Et voilà, mais ça a été un... Bon, la vidéo sera sûrement sortie, mais ça a été un énorme échec.
Ah merde.
C'est trop difficile, mais il y a
ah, donc la vidéo, c'était soit oui, oui à 100%,
ouais, soit non.
Ouais, parce que sinon, si tu fais pas l'effort de dire oui ou non, t'es entre les deux et tu finis par accepter.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, je me rendais compte qu'il y a plein de situations où tu peux pas dire non comme ça, tu vois. Juste, il y avait un exemple où j'étais, pendant les vacances de Noël, j'étais dans ma famille et on me propose de regarder un film. Et moi, j'avais pas envie, tu vois. Et j'avais pas non plus envie de dire non frontalement à la personne parce que j'avais pas envie de la blesser, tu vois.
Ah, c'est typiquement
l'exemple. Et c'est que des trucs comme ça.
Et après, tu te retrouves à faire les choses à moitié. T'essaies d'avoir ton téléphone pour avancer sur ce que tu voulais faire vraiment pendant le film. Ouais. Et en même temps, tu regardes autour de toi, tu vois qu'il y a tes parents, genre t'es content de passer du temps avec eux.
Ouais.
Ça, c'est super dur, ces équilibres entre faire plaisir aux personnes autour de soi et en même temps pas faire passer ses intérêts à la dixième place, tu vois.
Mais finalement, il y a un équilibre à trouver. Hein. C'est forcément, il y a des fois où tu dois te mettre dans des situations où t'as pas trop envie d'être, mais tu sais que ça va créer un beau moment. Les personnes qui seront avec toi vont vraiment passer un bon moment. Et il y a d'autres situations où vraiment tu sais que t'as dit oui, que t'as accepté juste parce que t'osais pas dire non et t'avais peur de la confrontation, mais en réalité t'avais tout à gagner à dire non.
Ouais.
Et donc c'est un équilibre à trouver finalement.
Et le pire, c'est que parfois la personne, j'espère pas, mais les personnes qui t'ont proposé un truc et t'étais pas chaud à 100% mais t'as dit oui pour leur faire plaisir, j'ai l'impression qu'elles le ressentent. Ouais. Et que quand t'es là, elles savent que, enfin, elles l'ont compris, mais elles vont pas, c'est pas elles qui vont te dire non ensuite,
tu vois.
Et je trouve que ça gêne tout le monde à la fin. Alors ça m'arrivait pas à moi, mais à quelqu'un lorsque j'étais à un salon il y a quelques jours des étudiants en droit, et j'ai vu quelqu'un pitcher quelqu'un sur une idée, et je voyais qu'il était pas chaud du tout. Et le problème, c'est qu'il avait la personne en face.
Ouais.
Par contre, ça, j'ai du mal. Les personnes qui font culpabiliser d'avance la personne, en gros, qui vont donner que des arguments émotionnels, même si ça convainc la plupart du temps, pour aussi, j'ai l'impression qu'elles se disent au pire, s'il va pas dire s'il dit pas oui, il va culpabiliser, il va peut-être revenir sur sa décision, et ça j'ai du mal. Et j'essaie de moi pas faire culpabiliser les personnes si elles refusent quelque chose que je propose, tu vois.
Ouais.
Parce que sinon ça, je sais pas, tu, c'est super facile de faire culpabiliser quelqu'un en vrai.
Ouais.
Et ça reste longtemps la culpabilité quand tu la mets dans la tête de quelqu'un, alors que la personne à qui t'as, je sais pas, si tu dis non, tu crées pas de culpabilité. Enfin, je sais pas, c'est dur. Si, parce que tu crées de la, même quand tu, toi tu dis non, tu vas culpabiliser parfois.
Oui, oui, il y a ça aussi.
Mais de toute façon, ouais, c'est le fait de prendre des décisions qui crée de la culpabilité.
Ouais, ouais, c'est ça, ouais.
Et le fait de dire non, à des, dire non, c'est super dur. C'est un bon sujet parce que dire non, c'est un des, ouais, c'est parce qu'il y a la peur de manquer, il y a la peur de se dire, est-ce que si j'avais dit oui, ouais, ce serait passé.
Moi, je sais que c'est surtout, j'ai peur de blesser la personne, tu vois.
Ok, il y a ça aussi.
Ouais. Ouais. Moi, c'est vraiment ça le problème.
C'est pour ça que j'aime, même si j'aime pas trop recevoir des mails.
Ouais.
J'aime le principe des mails parce que je dis non à un mail, tu vois.
Oui,
je
oui.
dis pas non à une personne. J'imagine pas la personne. J'ai pas forcément, parce que le nombre de personnes à qui j'ai dit non ou à qui j'ai pas répondu,
ouais.
il est phénoménal depuis quelques années.
Ouais,
et ça me fait du bien de pas imaginer la tête de la personne parce que si j'imagine que c'est des bonnes personnes, tu vois.
Ouais.
Même si le projet il me plaisait pas forcément ou je sais pas, je voyais pas l'intérêt, c'est sûrement des bonnes personnes derrière.
Ouais, carrément.
C'est super dur de se faire pitcher devant par une personne sympa
ouais.
et de dire non.
Ouais, ouais, c'est trop.
Mais c'est pour ça que les commerciaux ils veulent tous te voir en réel,
ouais,
tu vois.
Ouais, c'est
mais c'est ouais, ça c'est des situations gênantes et en tout cas c'est ouais, t'as fait souvent des expériences un petit peu gênantes de
ouais,
faire rejeter.
Ouais, exactement.
Et ça plaît aussi sur YouTube.
Ouais,
on aime voir quelqu'un se faire rejeter, ça nous aide nous.
Bah, et après il y en a qui sont aussi mal à l'aise
voilà.
de voir ça, mais.
Mais ça fait partie de la gêne. Par contre la gêne fait partie du progrès à 100%.
Complètement. Oui.
Et
oui.
D'ailleurs c'est pour ça que dans tes vidéos c'est bien de montrer que parfois t'es gêné et que. Tu vas pitcher des gens, d'ailleurs toi-même tu as pitché des gens sur des idées pour voir ce qu'elles allaient dire et
ouais, ouais,
tu te faisais rejeter parfois par
ouais.
des personnes et c'était c'est bien de montrer ça, tu vois.
Mmh.
Mais ouais, bah c'est une bonne expérience.
Ouais.
C'est une bonne expérience.
Ouais, ouais.
Et ce serait quoi le j'aime bien poser une question aussi, c'est quoi la dernière chose que tu as faite qui t'a fait peur?
Bah tu vois, c'est marrant que j'y pensais parce que tu sais souvent il
on crée un podcast à deux.
Ouais, ouais, c'est clair.
Un duo.
Parce que tu sais j'ai pensé tout à l'heure quand on était à la salle, mais tu vois la barre de deadlift, elle me faisait peur.
Mais oui, quand elle commence à se tordre.
Ouais. Mais je savais que là 150, je suis pas confiant et j'étais en mode ça va être dur, tu vois. Et
c'est clair la pression de se faire écraser par le poids que tu dois sortir du coup de...
C'est clair. Mais c'est pour ça que tu sais il y a des mecs en muscu, ils disent ça, ils disent si t'as pas peur de ta barre de squat, c'est que t'es pas dans la bonne direction.
Ouais.
Si elle te fait pas peur, si ta barre te fait pas peur, c'est que ça va pas.
C'est souvent des mecs en fauteuil roulant qui disent ça.
Mais sinon, en vrai, ta question est super intéressante. Et parce que je pourrais parler d'un autre truc, parce que là, c'était physique, tu vois. Mais je pense peut-être que tu parles d'une peur...
Après, c'est vrai qu'il y a différents types de peurs.
Ouais, ouais,
il y a
ouais.
la peur mentale aussi, qui est une des... Là, c'était une peur physique, mais mentale aussi. Enfin, c'est...
Ouais, ouais, ouais.
Ben en vrai c'est une bonne réponse hein. La salle il y a des fois où j'ai vraiment en effet quand tu pousses un poids
ouais.
Bah se retrouver, on s'est tous retrouvés coincés sous une barre, en vrai c'est pas confortable hein.
Ouais, ouais, ouais.
Donc je comprends, c'est une peur une peur justifiée
ouais.
Et la peur donc sûrement la gêne que t'as eu pour ce dernier tournage.
Mais oui c'est pareil tu vois, mais forcément quand tu vas rencontrer une personne que tu connais pas, tu te dis bah voilà, tu sais pas comment ça va se passer, tu vois, il y a un petit truc, une petite appréhension.
Ouais.
Donc ouais.
Ouais, ça c'est la gêne aussi.
Ouais.
Mais la gêne, on en parle pas beaucoup. C'est toujours la peur dont on parle, la peur dans les conférences, tu vois, faut ouais. faire ce qui vous fait peur.
Ouais.
Mais jamais on dit c'est normal d'être gêné aussi.
OK. Ouais, c'est vrai.
Alors,
et pourtant ça nous arrive
gêne,
tous hein.
Ouais. Mais la gêne, ça fait partie c'est humain
ouais.
Dès que tu as des relations, de toute façon, il y aura de la gêne au début
ouais.
de la relation. Et ça, c'est à cause des films aussi. Dans les films, c'est super smooth.
Oui, exactement, exactement.
Le regard, on boit un verre, ouais, pas de problème. Même pas besoin de dire on va boire un verre, ils vont boire un verre direct,
ouais,
tu
ouais,
vois. Fusion direct, pas de discussion gênante. pour finir sur ça, sur les relations, si je peux donner un conseil par rapport au film pour avoir eu plus de relations dans les dernières semaines,
ouais.
discussion plutôt,
ouais, okay.
Y a toujours. Tu vas me dire ce que t'en penses, mais même quand ça se passe bien, même quand tu parles, il y a des discussions intéressantes, tu vois, imagine t'as un date, il y a des discussions intéressantes, il y a toujours un moment où c'est gênant genre une discussion, tu fais ah merde, j'aurais pas dû dire ça. Ouais. Et après, tu remets en question tout ce que t'as genre dû. Ça nique tout. Genre, t'as l'impression de faire un perfect.
Ouais. Et là, t'annules tout et ouais, putain.
Mais ça me paraît important de le dire, tu vois. Parce que moi, je sais pas, avant, je me serais dit, bah non, dans les films, ça a l'air parfait. Ouais. Faut gérer la discussion. Ouais. Il y a toujours un moment dans le processus de découvrir d'une personne un moment gênant.
Qui sera gênant. Bah, ouais. Forcément, c'est sûr. Bah, par définition, en fait, parce que si c'est pas gênant. C'est que, enfin, je sais pas, tu connais déjà la personne, ouais. Et
c'est sûr que si tu la connais pas, il y a forcément, mais tu sais, c'est bête, c'est normal de le répéter, mais j'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup qui en parlent, tu vois. Non, justement parce que c'est gênant. Donc si quelqu'un dit c'est normal que ce soit gênant, ça veut dire qu'il a déjà connu des moments gênants, et du coup ça c'est mieux de jamais dire ouais, c'est de jamais parler de gêne, parce que ça fait croire que t'es jamais gêné.
Exactement. Et sur YouTube, ouais, c'est vrai que, enfin, tu sais, je vise personne en particulier, mais tu vois, il y a beaucoup de youtubeurs, je pense, avant, ils essayaient de montrer qu'ils étaient très très sûr d'eux, etc., qu'ils avaient aucun défaut. Et là, il y a un peu, j'ai l'impression, cette tendance inverse où les youtubeurs essaient de se montrer un peu plus au naturel et montrer leurs faiblesses. Et moi, je sais que c'est ce que j'ai envie de faire aussi sur ma chaîne YouTube. J'ai pas envie de me faire passer pour quelqu'un que je suis pas.
Bah, c'est même l'essence de YouTube, en fait. Je pense même pas que sur YouTube, ils fassent exprès. C'est juste que comme c'est des personnes lambda, c'est pas des personnes qui ont eu, c'est vraiment des personnes de tous les jours sur YouTube. C'est ça que j'aime bien. Et
après, il y a tout, hein. Ouais, il y a tout.
Ouais, mais t'as pas des gens qui viennent d'une famille de YouTubeurs comme avant. T'avais des gens qui venaient d'une famille d'acteurs, ouais. Qui avaient déjà tous les codes, genre à qui on donnait les codes.
Ouais.
Et donc, je trouve qu'on trouve facilement des personnes plus naturelles sur YouTube. Et c'est pour ça que ça marche bien, qu'il y a de plus en plus de YouTubeurs aussi. Ouais. Enfin, moi, je regarde que des personnes sur YouTube quasiment sur mon écran, en fait. Très rarement, jamais la télé, en fait. Ouais. Donc, ouais, ça fait. Bah, c'est ce qui plaît sur YouTube. Hein.
Ouais, naturel.
Donc, ouais, rester naturel, c'est ça tes objectifs. Rester naturel.
Ouais, c'est ça, ouais.
Continuer de progresser.
Ouais.
D'avoir des moments forcément de gêne parce que tu vas progresser, donc forcément tu vas te gêner.
Ouais, ouais.
Des moments où tu vas avoir un peu peur aussi.
Ouais.
Et puis, à 34 ans, au maximum, être papa.
Exactement.
C'est ça?
Ouais.
C'est tout ce qu'on peut te souhaiter pour
pense,
la suite?
Ouais, je pense que c'est le mieux.
Ok. Les 100 000 sur YouTube aussi, bientôt?
Ouais, petit objectif, même si ça, c'est un peu, peut-être cette année, ce serait
bien. Tu seras content.
Ouais. Mais tu sais, on peut pas trop se dire, bon, bah, cette année, j'aurai 100 000 abonnés. Mais cette année, ce serait bien.
Okay.
Ouais, ce serait bien.
Ok.
Oh, ça a des chances.
Ouais.
On est en mars.
Ouais.
Ça peut le faire.
Ouais.
Ok, mais en tout cas, mec, je te le redis, mais j'adore vraiment beaucoup, j'aime vraiment beaucoup ce que tu fais. Et c'est toujours une vidéo différente que je vois arriver quand je vois qu'il y a une vidéo de toi qui arrive. Je sais toujours justement pas à quoi m'attendre.
Ouais.
Et je sais qu'en tout cas, il va y avoir un petit montage, un petit truc que je vais apprendre.
Ouais.
Et j'aime bien justement ton naturel et je trouve que c'est cool de mettre, qu'il y ait de plus en plus de youtubeurs naturels comme ça.
Merci.
Et tu montres très facilement ta personnalité aussi.
Ouais.
Chose que moi, j'ai du mal à faire aussi, alors que, ben. Je sais pas, toi tu l'as fait très très vite en fait.
Ouais.
Donc
ouais.
J'avais même l'impression que maintenant je sais que t'avais une chaîne YouTube avant,
ouais.
Mais je comprends mieux pourquoi t'arrivais très vite à être naturel dans tes vidéos, parce que en effet t'étais très naturel dès le début. Et j'ai fait putain, bien joué, tu vois. Et donc bon courage pour la suite, ouais, et
beaucoup,
très content de t'avoir eu sur le podcast et d'avoir eu cette discussion. Ouais, c'était très cool.
Merci beaucoup, Grégoire. No games with you, no. You're the apple in my ear, where you eat my eye. Every time I make you leave, make me cry.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.